Solo esta vez. Oh, 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 oh.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respecter l'écart sanitaire et porter un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri chaud sur votre fréquence tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Bonjour Marcel, mais qu'est-ce que vous écoutez comme ça? Ah, vous dites Popourri chaud? Ah, c'est cette émission que j'écoutais dans ma jeunesse. Justement, ils ont tout un spécial sur la francophonie tout au long du mois de mars.
Du 7 au 28 mars 2021, pandémie ou pas, célébrons le mois de la francophonie et unissons-nous. Du 7 au 28 mars à 2021, Popourri chaud CUT 89,5 FM et ses partenaires vous invitent à célébrer la langue française dans toute sa diversité avec des activités virtuelles, gratuites et diversifiées. Jeux concours, 5 films de ciné franco sous-titrés en anglais à visionner en ligne pendant les vacances scolaires du 9 au 18 avril. Les découvertes, les coups de cœur littéraires des éditions prises de parole, les mots ou les expressions les plus imagées, les plus bizarres utilisées à travers les différents pays francophones. Une voix, une chanson, une ville, des concerts, des spectacles numériques et le tout assaisonné avec une sauce très pimentée, exotique, enrobée d'une dose d'humour. Du 7 au 28 mars, soyez de la fête, soyez de la fête de la francophonie. Une expérience unique, exceptionnelle sur CUT 89,5 FM. Et n'oubliez pas de visiter notre site web pour les mises à jour, popourrichaud.com ou cinéfranco.com. Mois de mars, mois de la francophonie, unissons-nous. Cette 34e édition est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, Marceline de Ciné Franco, les éditions Prise de Parole, de la Communication, les Français de l'étranger à Gatineau et Ottawa.
Marcel, est-ce qu'on nous sert du pop-corn avec tout ça?
Mes chers enfants, vous avez tellement grandi. Il est temps pour moi de vous transmettre un héritage. Je l'ai reçu de mes aïeux et ce sera désormais le vôtre. Vous le transmettrez plus tard à vos enfants et à vos petits-enfants. Il ne s'agit pas de biens matériels, c'est une richesse que vous portez en vous sans savoir. C'est l'essence même de vos pensées qui vous relie au monde et à l'universel et qui ne demande qu'à être.
Tout ceci doit vous paraître bien mystérieux, mais ne soyez pas inquiets, je suis là pour vous guider. Souvenez-vous de ce que je vous ai appris. Faites confiance à vos intuitions. Poursuivez votre rêve et rejoignez-moi sans tarder. Je vous aime, papa.
Viens, on part tout de suite.
Attends.
Mais attends quoi?
Il y a un problème. Regarde.
L'adresse est illisible. Mais comment on va faire?
Attends, réfléchissons. Je sais, il est sûrement en francophonie.
Quoi?
Mais oui, souviens-toi. Il nous dit tout le temps, mon pays, c'est la francophonie.
Mais c'est où la francophonie?
Ah, ça, je ne sais pas.
Et si on regardait dans le dictionnaire? Comme dit papa, la plupart des réponses que tu cherches
sont dans les dictionnaires.
Qui êtes-vous?
Eh bien, je suis, disons... le génie de la langue française.
Mais alors, si vous êtes un génie, vous pouvez peut-être nous aider à retrouver notre père?
Ah, mais oui, pourquoi pas? Que voulez-vous savoir?
On pense qu'il vit en francophonie, mais on ne sait pas où c'est.
En francophonie? Alors là, vous ne pouvez pas mieux tomber, la francophonie, mais c'est ici. La francophonie, c'est partout où l'on parle le français.
En France, alors?
La langue française est née en France, mais elle vit dans de nombreux pays. Regardez. De quel continent êtes-vous?
Nous, c'est l'Afrique.
Est-ce que tu voudrais bien nous dessiner l'Afrique? Tiens, je te prête mon stylo magique.
C'est génial.
C'est parfait. Est-ce que toi, tu voudrais bien nous dessiner l'Amérique? Très bien. Mais ces deux continents, on ne parle pas français que dans ces deux continents. Regardez, en Asie, hop, en Océanie, et enfin, en Europe. Voici pour vous tous les continents où le français est parlé.
Où sommes-nous ?
Bienvenue au Québec, les enfants. Je vous présente une grande dame de la chanson francophone, Diane.
Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent, numéro d'appel aux abonnés absents. Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante. Vendez mon cœur 3 francs 50. Tu savais si bien m'écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps, sans me décourager tout le temps. Comme quelqu'un qui n'a plus besoin, s'endort près de son téléphone et sourit quand on le réveille. Mais ce n'était que le soleil. L'autre jour j'ai vu quelqu'un qui te ressemble, et la rue était comme une photo qui te rend. Si c'est toi qui parles le jour où je me promène, si c'est vraiment toi, je vois déjà la scène. Moi, et tu me regardes. Je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le soir demain. Comme quelqu'un qui n'a plus personne, s'endort près de son téléphone. Il te cherche à son réveil, toute seule au soleil, et j'attends. Si tu savais comme je t'attends tout le temps. Quand seras-tu là? Je t'attends, je voulais te dire que je t'attends. Tu savais comme je t'attends tout le temps. Je voulais te dire que je t'attends.
Dimanche 21 mars 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à Toronto. Toronto qui se trouve en Ontario, la province très populaire auprès des immigrants francophones, notamment grâce au programme de l'entrée express du gouvernement du Canada. Je rappelle que la ville de Toronto est la 4e ville la plus peuplée en Amérique du Nord. La grande région de Toronto compte plus de 7 millions d'habitants, qui inclut près de 744 000 franco-ontariens. La métropole est l'une des plus cosmopolites du monde, avec plus de 50% de ses résidents qui appartiennent à un groupe de minorités raciales. Bienvenue à la 34e édition du mois de la francophonie, de la semaine de la langue française sur CUT 89,5 FM, la radio du campus de l'Université de Toronto, l'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Adair avec vous de 11h à 14h chaque dimanche. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être en compagnie de plusieurs invités, partenaires débordants d'énergie et d'un enthousiasme d'autant plus débordant en cette année difficile. La crise que nous traversons a démontré à quel point nous avons tous besoin d'art et de culture pour s'évader, rêver et garder espoir. Vous pouvez télécharger toutes nos émissions tout au long de l'année, où que vous soyez, en visitant notre page web popourichaud.com. Après un voyage formidable hier, 20 mars, journée internationale de la francophonie sur les 5 continents, spectacles, comédies, films, contes, conférences, du Vietnam en passant par Liège, Lyon, la Louisiane, le Québec, Montréal, Washington, la RDC, Dakar, Yaoundé, des moments remplis d'émotions. Avec ce confinement prolongé, Popourri Show se réinvente et vous offre en exclusivité, mesdames, messieurs, des rendez-vous virtuels avec des écrivains, des auteurs, des artistes, des personnalités engagées dans la défense de la langue française. En passant, je salue Marceline, fondatrice de Ciné Franco, qui était des nôtres dimanche dernier. Beaucoup de réactions, hein. Et je vous rappelle qu'elle nous offre des films d'évasion, des films qui nous plongent dans des cultures, des traditions, des mœurs des pays francophones durant toute la semaine de la francophonie, c'est-à-dire jusqu'au 27 mars. Et je vous invite à visiter le site web cinéfranco.com. Inscrivez-vous, faites vos choix. Et en plus, c'est pas cher. Et en toute liberté, vous pouvez visionner les films de votre choix. Allez, tapez cinéfranco.com et je viens d'apprendre à l'instant que peut-être nous aurons une entrevue exclusive avec Philippe Lesage, réalisateur du film Les Démons. Cinéfranco est avec vous tout au long de l'année. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site web pour découvrir les autres événements de l'année de Cinéfranco, cinéfranco.com. J'en profite pour saluer les équipes partenaires de la radio, le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO. Et oui, si la magie du numérique nous le permet, nous recevrons dimanche prochain, lors de notre émission de clôture, professeur Emmanuelle Le Pichon-Wortzmann. Elle est directrice du CREFO, elle fait des choses très intéressantes. D'ailleurs, je vous rappelle qu'elle anime les podcasts, qui sont très populaires, des podcasts « Quoi de neuf ?» les cafés du CREFO, qui connaissent un vrai succès en Ontario et à l'étranger. Allez taper dans votre moteur de recherche « Café du CREFO » et vous découvrirez les perles rares du CREFO. Bien sûr, je remercie les éditions Prise de Parole. Et grâce à la maison Prise de Parole, nous aurons des invités la semaine prochaine, des auteurs, des autrices, pour nous parler de leurs derniers ouvrages. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir, mesdames, messieurs, deux personnalités francophones qui ont la langue maternelle en commun. Ils sont tous deux haïtiens. France Benjamin, qui est déjà passé à l'émission, il est auteur, écrivain, député à l'Assemblée nationale du Québec et animateur de radio, comme passe-temps. Nous discuterons de culture, de l'état de la langue française à Montréal. Vous savez, c'est un sujet qui fait débat ces temps-ci. Et oui, au Québec. Et nous parlerons aussi de ces livres publiés par la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Et vers 13h, je vous invite à visiter Port-au-Prince et le très jeune directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, D'Angelo Néar. Il est journaliste de Radio-Télévision Caraïbes, animateur du magazine Cause Kilti sur RFI, que vous connaissez bien, un véritable animateur, une âme, un artiste que le gouvernement haïtien est allé chercher pour transformer ce patrimoine documentaire d'Haïti. D'Angelo Néar, vers 13h, à ne pas rater, madame, monsieur. Et comme d'habitude, nous recevrons nos amis de l'association France-Ottawa-Gatineau qui font un travail formidable afin de promouvoir le projet Amicitia, un monument dédié à l'amitié entre la France et le Canada. Ils ont bien besoin de votre aide, de votre coup de pouce. Et enfin, nous recevrons plusieurs artistes, des comédiens de la langue française qui jouent, qui jonglent avec la langue française. Angélique Quijot, le Sénégalais Youssou Noundour à la fin de l'émission. Et c'est notre façon de saluer les Sénégalais qui traversent, comme vous le savez, des moments très très difficiles. Comme chaque année, la Journée internationale de la francophonie et la Semaine de la francophonie sont célébrées dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Et cette année, pour marquer le coup, la secrétaire générale de la francophonie a souhaité inscrire les célébrations de la francophonie sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Et à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, Louise Mushiki-Wabo, secrétaire générale de l'OIF, était l'invitée de Nathalie Amar sur Radio France Internationale. En voici un extrait.
Journée internationale de la francophonie.
RFI en édition spéciale.
Nathalie Amar.
Et oui, RFI jusqu'à 9h en direct du siège de la francophonie à Paris. Et pour le prochain quart d'heure jusqu'à 8h30, nous sommes avec notre invité. Bonjour Louise Mushiki-Wabo.
Bonjour.
Cet entretien est à suivre en direct, en live, en bon français, n'est-ce pas, sur notre page Facebook. Vous avez succédé à Michaël Jean comme secrétaire général de la francophonie en janvier dernier, après avoir été désigné par consensus au sommet d'Erevan, c'était en octobre. Vous êtes la première femme africaine à occuper ce poste. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis, vous avez été pendant 9 ans ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et vous êtes, Louise Mushiki-Wabo, une adepte de ce multilinguisme dont on parle depuis une heure dans cette émission. L'anglais, dans lequel vous avez écrit un ouvrage, le français, le Kinyarwanda, le Swahili, comment est-ce que tout ça s'articule chez vous, dans votre tête?
Écoutez, je suis non seulement une adepte du multilinguisme, mais c'est aussi la réalité du monde aujourd'hui. Beaucoup de francophones, à travers notre espace, parlent de plus en plus d'autres langues, pour parfois des raisons économiques, parfois des raisons de facilité d'éducation. Et moi, personnellement, je suis à la fois le produit et, si vous voulez, un canal de transmission de plusieurs langues. Je viens d'une partie de l'Afrique, le Rwanda, mon pays, est entre l'Afrique centrale francophone et l'Afrique de l'Est anglophone. On parle Swahili, on parle français, on parle anglais, quelques-uns même parlent Lingala.
Et il y a quelque chose de naturel à ça, à ce brassage, comme on le disait tout à l'heure avec nos invités.
Tout à fait, c'est naturel, mais c'est aussi une sorte de réveil par rapport à plusieurs francophones. Il faut aller au-delà d'une langue, même si on reste très très attaché à la langue française.
Vous parlez de réveil. Il y a 300 millions de francophones aujourd'hui dans le monde, on l'a dit, hein, essentiellement sur le continent africain. Au-delà de je dirais, cet atout démographique qui fait qu'en 2050, eh ben, il y aura peut-être 400 ou 700 millions de francophones sur la planète, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en 2019, pour défendre la place du français?
Moi, je n'aime pas tellement donner l'impression qu'on va en guerre contre d'autres langues. Donc, défendre la langue française, peut-être pas, mais faire rayonner la langue, s'assurer de la présence de notre langue dans différents domaines d'éducation, des affaires, de la science, c'est important.
Mais faire reconnaître le français, par exemple, dans les institutions internationales, c'est un combat qui vous intéresse, ou vous dites finalement c'est pas ça le problème, mieux vaut se concentrer sur le français ailleurs que dans les institutions internationales?
Non, ça c'est un combat qui fait partie de mon mandat aussi. Le fait que la langue française, qui traditionnellement est d'ailleurs la langue des institutions diplomatiques internationales, c'est une réalité qui évolue. Parce que le monde est pressé et c'est plus facile de
dire... Et le français
est
trop compliqué.
Le français n'est pas vraiment compliqué, mais il y a une perception qu'on doit casser, nous, en tout cas ici à la francophonie, et aussi tous nos locuteurs, c'est de donner l'impression que la langue française est une langue un peu ésotérique, de l'élite, de la littérature, et il faut absolument bien parler français. Nous, on veut surtout communiquer. avec la langue française. Et c'est cet aspect de la langue, cette année, avec notre slogan, c'est ça notre message, qu'on fasse un effort, qu'on soit conscient du fait que ce qu'on dit facilement en anglais, on peut le dire en français.
Alors communiquer, Louise Mushikiwabo, ça passe évidemment aujourd'hui par Internet. Il y a un gros enjeu là de la présence du français sur le net. Je crois que c'est la quatrième langue, c'est ce qu'indique le rapport annuel. Comment faire pour pousser là aussi l'usage du français sur les réseaux sociaux, sur le net?
On va vers la jeunesse. La jeunesse est très très présente sur le net. La jeunesse aussi est une grande caractéristique de l'espace francophone. Alors nous, dans notre travail quotidien, et bien évidemment, on est en train d'étudier les stratégies, c'est vraiment de nous assurer que notre jeunesse francophone, qui est très très présente sur le net, soit présente beaucoup plus en français.
Mmh. Mais la jeunesse aussi se détourne parfois du français, y compris, et on l'a entendu tout à l'heure, parce qu'elle est perçue comme la langue qui a été imposée d'en haut, imposée par la colonisation.
Attention, moi je suis connue pour être très très fortement contre la colonisation. Je trouve que c'est une grande injustice dont on ne veut même plus parler. Mais la langue française a été adoptée par nous, les pays colonisés. Nous l'avons faite notre langue. Et nous avons dans nos systèmes éducatifs, en tout cas sur le continent africain, où 30 pays sont quand même membres de notre organisation, cette langue fait partie de nous. Donc nous avons, si je peux ainsi m'exprimer, pris cette langue du colonisateur, nous l'avons adopté, nous l'avons adapté à notre vie, nous lui avons donné nos accents, nos saveurs et désormais elle nous appartient aussi.
Donc elle est déconnectée pour vous de tous les enjeux politiques. On parle du rayonnement de la France, du rayonnement même politique de la France. Pour ça, pour vous, c'est du passé, ça?
Non, je pense que ce serait malhonnête de dire que la langue française, en tout cas dans les pays du Sud, est totalement libérée des aspects politiques. Les enjeux mondiaux aujourd'hui sont surtout menés par les grands pays, dont la France, qui est le pays qui nous a donné la langue française. Mais les choses changent et le monde change.
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol, le portugais,
le créole
et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université?
On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre.
On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la 12e langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones.
Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques.
Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever.
Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'offre.
On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs.
Ensemble, communiquons,
vivons,
travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes Québécois, Acadiens,
Franco-Tico,
Guadeloupéens,
Franco-Ontariens,
Nous sommes la francophonie.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants. à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
CIUT 89.5 Toronto.
Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les gens de mon quartier, mes amis, ma famille. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, on doit tous porter le masque.
Tous contre un, tous contre la COVID-19.
Yeah. Moi, je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation Diversity of Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lindor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lindor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Media, Croix-Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Pour Pourichaud et CUT 89.5 FM sont fiers de vous présenter la 34e édition du mois de la francophonie, ayant pour thème « Unissons-nous ». Du 7 au 28 mars, découvrez le calendrier des activités, les jeux concours, les rendez-vous francophones. Et à tous les amateurs du cinéma, Ciné Franco fête avec enthousiasme et passion la semaine de la francophonie. Du 20 au 27 mars, allez visiter le site web immédiatement, cinéfranco.com. Nous vous invitons à consulter la programmation complète sur popourishow.com. Pour toute question, popourri@cut.fm. Du 7 au 28 mars, célébrons en ligne la diversité francophone. Bonne et heureuse journée.
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime. Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT FM, chaque dimanche de 11h à 13h en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prise de parole, EducNation, Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Bonsoir mademoiselle, tu viens d'attraper mon regard. J'aimerais juste savoir si tu voudrais quelque chose à boire. Pour moi c'est pas la peine, je pourrais juste à force de te voir. Ta tenue te va bien mais tu n'es pas obligé de la porter ce soir.
Oui, enlève tous tes habits comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, oui, ton corps aime parler avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, 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 body. Oui, enlève tous tes habits comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, oui, ton corps aime parler avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, body, body.
Je me fais rêver les yeux ouverts. Même quand je les ferme, elle est la seule chose que je vois.
Elle me fait voler les pieds sur terre.
Moi j'ai entendu la langue de l'amour dans sa voix.
Parler au français, oh. Le langage de ton corps m'a dit que oui. Parler au français, oh. Le langage de ton corps m'a dit que oui.
s'il ne t'allait pas. Toute la nuit, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, tout en train de parler avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, 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 body.
Pas besoin de mots, pas besoin de mots. Oublie tout est complexe. Tu pensais jamais trouver meilleur que ton ex. Et le gars est trop frais, mais d'où il sort, du Louis Store. Quand pas de Dior, avant film, ils sont déjà morts. Et j'ai même pas commencé, mais moi j'en veux déjà encore. Elle me donne son numéro, mais moi je veux déjà son corps. Moi je veux déjà son fou. Parfum Coco Chanel, son corps m'appelle. Direction Georges 5 Hôtel. Des valises étages avant que collecte faire. L'homme n'est dans une vie de rêve, c'est ce que je promets faire. Fais disparaître les autres mecs, tous les trophées je collecte, collecte. Je ne me présente pas, tu dois me connaître, frère. Mr. Dream, tes rêves je dessine. Trop d'adrénaline, ton entourage hallucine. Fais jalouse et tes copines. Musical, French kiss, ok, délice. Dans ta playlist,
elle me fait rêver, les yeux ouverts. Même quand je les ferme, elle est la seule chose que je vois.
Elle me fait voler les pieds sur terre.
Moi j'ai entendu la langue de l'amour dans sa voix.
Parlez-vous français? Le langage de ton corps m'a dit que oui. Parlez-vous français?
S'il ne t'allait pas, toute la nuit, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, tout en train de parler avec moi. Moi j'ai parlé à ton parler, 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 parler.
Parlez-vous français? Le langage de ton corps m'a dit que oui. Parlez-vous français?
Quand nous parlons de francophonie à l'UGA, nous parlons d'abord d'un espace commun de vivre ensemble, qui valorise la production d'un savoir au service d'une citoyenneté tolérante, respectueuse des cultures, responsable de l'environnement dans lequel elle évolue et soucieuse de l'égalité entre nous, au-delà de nos origines et de nos différences. Nous parlons aussi d'un formidable espace scientifique international conçu comme un lieu de partage de connaissances, d'échange de pratiques dans la recherche et la formation. Cette francophonie solidaire est assurée grâce à la mobilité de nos étudiants, nos enseignants et bien sûr notre personnel administratif.
Notre campus, c'est un espace linguistique d'une richesse incroyable. Nous accueillons chaque année sur notre site 9000 étudiants internationaux venus des quatre coins de la planète. Ils poursuivent leur cursus universitaire dans cet environnement francophone où se mêlent les sons et les mots du monde entier. Nous sommes particulièrement fiers de travailler et d'étudier dans cet espace où les langues se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. C'est un mode de vie interculturel où chacun a sa place que nous défendons. Aujourd'hui, nous fêtons la francophonie, celle que nous vivons au quotidien sur notre campus et celle qui nous lie à d'autres cultures plus ou moins lointaines.
L'édition 2021 est consacrée aux francophonies africaines. Rejoignez-nous pour découvrir donc la richesse de ce continent à travers donc un programme consistant des conférences autour des langues, des tables rondes sur le patrimoine, des ateliers de lecture et de cuisine, des contes en musique et le tout grâce à une équipe très dynamique. Bonne journée francophone.
1880, un homme, Onésime Reclus, géographe français qui entend désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Aujourd'hui, le français est la cinquième langue parlée sur la planète, avec 300 millions de locuteurs. Près de 60% vit en Afrique. En Afrique du Nord, l'Algérie est la première communauté francophone avec plus de 13,8 millions de personnes sachant lire et écrire le français. Par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les trois pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la proportion de francophones est la plus grande. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie, puis la Pologne et la Serbie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense plus de 7 millions, soit plus de 4 habitants sur 5. Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Aujourd'hui, 132 millions de personnes dans le monde étudient le français. C'est la deuxième langue étrangère apprise après l'anglais, l'une des deux seules langues parlées et enseignées sur tous les continents.
Des communautés francophones sont heureuses de vous accueillir partout au Canada. Le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Ce bilinguisme est une richesse à exploiter, qui ouvre des portes pour les nouveaux arrivants et les générations à suivre. La plupart des Canadiens francophones habitent au Québec, mais on en trouve aussi un grand nombre au sein de communautés vibrantes dans les autres provinces et territoires du pays.
Je m'appelle Jean-Nicolas Dora, je suis l'heureux papa de Gabriel et Charline et le mari de Aude. On a immigré au Canada en avril 2011, venant de Belgique où on avait passé 4 ans, on est originaire de France au départ.
Au tout départ, nous on avait vraiment l'envie de partir à l'étranger, de voir comment ça se passait ailleurs. Et notre expérience en Belgique nous a permis de cibler un petit peu mieux notre destination. Et on avait envie d'être dans un pays anglophone, principalement, et puis qui offre la même qualité de vie que ce qu'on avait déjà en Europe. J'ai regardé sur Internet où était Labrador City. Je dis, oh waouh, ce serait une aventure super cool.
J'ai travaillé en tant qu'ingénieur projet et puis ça a bien marché, il y a eu un bon fit. Mon office manager est parti, je l'ai remplacé, donc voilà, ça a été une belle progression et tout, vraiment une belle réussite au niveau professionnel. La destination naturelle pour les francophones d'Europe, c'est « Ah, bah tiens, on va au Canada, on va au Québec ». Et puis que tu arrives dans un marché plus compétitif et t'as pas l'avantage de parler français, parce que tout le monde à côté de toi parle français. J'avais plutôt l'a priori de vouloir aller dans le rest of Canada, parce que ça nous donnait plus de chance, nous, au niveau de notre immigration, d'aller dans un endroit où on n'aurait pas une compétition entre guillemets aussi féroce que ça peut l'être au Québec, parce que un francophone au Québec, c'est pas une différence.
Je m'appelle Syria Kitty, je suis originaire du Bénin en Afrique de l'Ouest. La ville d'Edmonton, en fait, c'est une ville francophone. Il fallait qu'on s'adapte un peu à l'anglais parce que oui, on parle français, mais les gens travaillent beaucoup en anglais. On a été bien accueillis, le processus d'intégration n'a pas été trop compliqué. On a reçu de l'aide, par exemple, pour nous indiquer un peu les services, les différents bureaux administratifs. Les gens étaient très gentils, ils nous appelaient quand même pendant à peu près un bon 6 mois. Les gens nous appelaient quand même pour savoir si ça va bien, s'il y avait des choses qu'on avait besoin. Puis au niveau aussi du centre des nouveaux arrivants, ils ont été très très actifs dans la première année. Je préparais mon CV, je l'ai envoyé, ça a duré environ 3 mois. Le début, c'était pas facile parce que en fait l'entrevue se faisait complètement en anglais, alors que à l'époque, j'étais vraiment pas à l'aise en anglais, mais ils m'ont quand même avoué que ils veulent me prendre, mais parce qu'ils savent qu'avec le temps, je vais apprendre l'anglais. Puis finalement, j'ai commencé à travailler à la banque. Mes formations, tous étaient en anglais. J'ai réussi à passer à travers. Donc, depuis là, je travaille comme directeur de compte. À la banque, j'ai tellement de possibilités de progression en emploi, des formations, formations continues toujours disponibles. Donc, on a plein d'opportunités. L'adaptation se fait bien. Moi, je suis habitué maintenant aux deux. De l'anglais au français, je change mon système en anglais ou en français. Puis, je me sens très bien.
Ça fait plus d'un an que je suis installé à Vancouver. J'ai ma femme aussi qui est avec moi et mes deux enfants, mes deux filles. Nous sommes très heureux, très comblés d'être à Vancouver. Il y a la montagne, il y a l'océan. Et puis, professionnellement, nous avons réussi à nous intégrer. J'ai participé au programme d'intégration des nouveaux arrivants francophones et ils m'ont aiguillé sur toutes les ressources qui existaient en termes de logement, d'éducation, bien sûr, de santé. Pourquoi on a choisi le Canada? Parce que c'est un pays bilingue. Et elle voulait en fait offrir une éducation véritablement en français et en anglais à nos enfants. Et le Canada, c'est le pays idéal pour cela. Et aussi parce que c'est un pays dynamique économiquement. Donc c'est un pays qui offre des opportunités. J'ai
Je viens de Belgique. Je suis directrice du commerce international au World Trade Center de Winnipeg. Je suis au Canada depuis 4 ans et demi. Je suis mariée avec 2 petits garçons. On a découvert que le Manitoba avait un programme d'immigration vraiment bien fait, on va dire une sorte de fast track pour les francophones. Donc on a commencé à regarder à ça et ça nous a beaucoup plu.
Karine, est-ce que tu peux regarder pour les factures du What's in it for EU qu'on a fait la semaine passée?
Bien sûr.
Ok, merci, merci beaucoup.
On s'est senti les bienvenus grâce aux Manitobains qui nous ont fait sentir les bienvenus, voir si on avait besoin de quoi que ce soit. On est venu en visite exploratoire, on a visité toutes les écoles francophones de Winnipeg, on a rencontré des banques, on a rencontré des hommes d'affaires, on avait loué une voiture, on a été voir quelques maisons pour voir comment était l'immobilier. Donc on a commencé tous les processus d'immigration et puis 9 mois plus tard, on a eu nos papiers et on est arrivé.
On avait les reins solides en Europe et tout, on avait notre maison, etc. Donc on avait quand même, on partait pas les mains vides. Puis le fait d'avoir un travail, ben on savait que c'était quelque chose qui faciliterait beaucoup notre intégration et puis notre immigration. Donc on s'est pas trop posé la question finalement. Puis moi ça m'arrangeait bien parce que je revenais vers la neige qui est là où j'ai grandi et tout dans les Alpes. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait aussi faire découvrir à nos enfants.
Hello, Chacha. Ça va bien?
Nous, Gabriel et Charlie, ils font 4 à 5 activités par semaine et on passe de l'ordre de 1 heure de voiture par semaine pour leur faire faire toutes leurs activités. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Et des fois, on va à l'aréna en skidoo ou on va aller à pied ou en vélo au champ de soccer.
Une des premières choses qu'on voulait faire, c'était inscrire les enfants dans des activités parascolaires de manière à pouvoir leur faire connaître des copains, etc. C'est clair que le sport pour les enfants, ça a été un vecteur d'intégration très rapide pour nous. Ça fait partie de nos valeurs et puis c'est quelque chose qui nous a permis de, un, de bénéficier de la communauté et deux, d'amener à la communauté aussi ce qu'on pouvait.
L'intégration pour mes filles à l'école s'est passée facilement parce que l'enseignement est en français. C'est vraiment axé sur le développement personnel, sur la confiance en soi. Donc c'est facile en fait ici l'intégration des enfants à l'école. Après, au niveau de la vie sociale, ça a pris un peu plus de temps parce que on est dans un environnement anglophone. Elles sont arrivées ici sans parler un mot d'anglais, donc c'était plus compliqué.
Il y a des étapes à ne pas griller. Par exemple, à l'apprentissage de l'anglais. Donc, le centre francophone propose des cours gratuits en anglais pour les nouveaux immigrants résidents permanents. La grande majorité des gens parlent en anglais. Donc, il faut vraiment apprendre l'anglais ici.
Ben moi, j'étais ravi qu'elle choisisse ce sport parce que c'est un sport d'équipe, ça apprend la solidarité et puis c'est un moyen aussi pour elles d'être bien intégrées dans leur communauté. Ça leur a permis d'apprendre l'anglais très rapidement.
On a des demandes de gens, d'amis, de gens qu'on connaît depuis longtemps, qui cherchent à en savoir plus. Et on leur dit, oui, il y a des opportunités d'emploi. Oui, vous pouvez vivre en français. Oui, il y a des écoles en français. Oui, on peut se développer et y trouver des opportunités. Il faut juste être conscient que l'anglais est omniprésent et qu'il faut y travailler.
Donc c'est vraiment important quand on vient au Manitoba de parler l'anglais. Le français est un atout, mais il faut savoir parler l'anglais. Ça, c'est certain.
On entend parler français presque tous les jours. Donc il suffit de se promener, que ce soit au marché, que ce soit au spectacle, que ce soit ici au village. Le français, il y en a. Il faut juste l'entendre, il faut le repérer. Rien qu'ici, si je regarde autour de nous à l'aréna ou si on regarde les enfants qui jouent, on va dire que la moitié au moins parle français. Ils vont peut-être pas se parler français entre eux, mais ils parlent tous français.
Économiquement, le Canada va très bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que Virginie, il lui a fallu 2 semaines pour trouver du travail et moi 3 semaines. Toutes les possibilités sont ouvertes. C'est un pays d'entrepreneurs et donc on aime vraiment ce côté-là. Et pour nos enfants, on trouve que c'est très important.
Les opportunités que le Canada offre aujourd'hui dans le monde, c'est un des rares pays qui offre le plus d'opportunités aux immigrants. Puis les Canadiens sont quand même généralement encore très ouverts.
Le Canada, quand je suis arrivée, la chose qui m'a beaucoup frappée, c'est l'accueil, mais aussi la facilité de pouvoir avoir accès à certains services. Dans d'autres endroits, c'est plus difficile. Ça peut être tous des services qu'on voit au niveau d'un immigrant qui arrive. Donc, on a des endroits où on peut aller pour pouvoir poser des questions. On peut nous guider plus facilement aussi. Donc, cette facilité de pouvoir rentrer dans le système et de pouvoir aller demander certaines informations m'a aussi beaucoup, beaucoup frappée. Que ça soit au niveau de mes études, au niveau aussi quand j'ai commencé à avoir une famille, à construire une famille avec les enfants aussi que j'ai eus. Donc, c'est tout ce service qu'on a à la population qui, pour nous en tout cas, ont été très, très, très bénéfiques.
Personnellement, c'est une bonne expérience qu'on a faite, puis on la referait probablement si jamais l'occasion se présente. Donc, on va les exhorter vraiment à essayer, à prendre des risques, à partir, parce que juste après nous, on a d'autres amis qui ont choisi l'Ontario. C'est une bonne expérience si les gens ont la chance de le faire. De ne pas hésiter.
Quand on a immigré ici, c'est justement de pouvoir avoir une famille, de pouvoir parler, continuer à parler le français et de pouvoir permettre aussi à nos enfants de pouvoir connaître l'anglais. Ça permet aussi de pouvoir vivre l'avenir que je veux dans un endroit que je veux. Bref, la liberté.
Si vous voulez immigrer au Canada, vous pouvez créer votre profil d'Entrée Express. Entrée Express sert à traiter les demandes de résidence permanente présentées au titre de certains programmes d'immigration économique fédéraux. Dans le cadre du système Entrée Express, les demandes dûment remplies des candidats qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sont généralement traitées dans un délai de 6 mois ou moins. Il y a de multiples façons de profiter de la vie en français au Canada. Informez-vous à canada.ca/immigration-franco.
Émission spéciale sur CUT 89,5 FM, mois de mars, mois de la francophonie, unissons-nous. Un monument né d'une histoire et d'un patrimoine partagé. Amicitia, France-Canada, est l'expression latine pour amitié fraternelle France-Canada. Et également le nom que portera le monument qui sera érigé à Ottawa pour reconnaître plus de 4 siècles d'histoire et de patrimoine commun et plus de 90 ans de relations diplomatiques officielles entre la France et le Canada. Situé dans le cimetière historique de Beechwood, le cimetière national du Canada, ce monument sera le témoignage vivant de la grande communauté française et canadienne et qui a et continue de soutenir, de contribuer et d'enrichir, d'un océan à l'autre, la vie de tant d'autres personnes à travers le monde pendant les périodes de guerre, conflits et paix. La fondation du cimetière Beechwood fonctionne sur une base non lucrative et ne reçoit aucun financement public. Voilà pourquoi les administrateurs de ce projet font appel à votre générosité. Pour faire un don, visitez le site lending.beechwoodottawa.ca/fr ou visitez notre site popourishow.com. Amitié fraternelle France-Canada est le nom que portera le monument qui sera érigé à Ottawa pour reconnaître plus de 4 siècles d'histoire et de patrimoine commun et plus de 90 ans de relations diplomatiques officielles entre la France et le Canada. Ciné Franco présente Le Sac de Farine, un film de Khadija Leclerc, une production entre la Belgique, le Maroc et la France. Du 20 au 27 mars, célébrons la francophonie d'ici et d'ailleurs avec Ciné Franco dans le confort de votre salon. Le Sac de Farine, voici la bande annonce.
Marie, au-dessus de ta tête. Mais baisse la tête, tu veux nous mettre la honte?
Tu sais écrire en français?
Sûrement mieux que toi.
Je vais écrire 200 tracts pour les étudiants du collège.
T'es folle. Tu risques de te retrouver en prison avec ces tracts.
Ce qui compte, c'est l'amour, pas la virginité, madame.
En petit groupe peut transmettre le virus mortel de la COVID-19 à quelqu'un qui vous est cher. En attendant d'être tous vaccinés, restez chez vous. Sauvez des vies.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio. CIUT 89.5, the sound of your city.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Allô?
Bonjour, je pourrais parler à Marcel, s'il vous plaît.
Attendez que je vois si elle est là.
Ah, bienvenue et bonjour. Je suis avec monsieur Thierry Lavignas. Ça vous dérange pas, hein, qu'il soit des nôtres. Alors, nous sommes en train de cuisiner. Nous sommes en plein brunch, monsieur.
Oh là là.
Alors, très heureux de vous recevoir, hein. C'est tout un plaisir d'inclure Ciné Franco dans notre programmation spéciale. Mmh. Et alors, je sais que vous avez un emploi du temps assez chargé aujourd'hui. Vous avez des surprises pour les cinéphiles et les auditeurs dans le cadre de la semaine francophone du 20 au 27 mars. Ciné Franco nous offre des longs métrages, des fictions, des drames, de l'humour, peut-être de l'amour aussi, hein? Un vrai dépaysement, un vrai dépaysement en tout cas, tout en restant chez soi. Alors nous allons commencer avec votre première suggestion, c'est La Genèse, un drame de Philippe Lesage et c'est un film canadien.
Oui, c'est un film donc québécois. Ce sont justement les premiers ébats amoureux des adolescents et c'est un film fort, très intense où on se découvre, enfin, donc je ne veux pas tout vous révéler, mais tout de même il y a un thème à la fois il y a une errance amoureuse, mais il y a aussi des découvertes de soi, en particulier le jeune garçon qui se révèle à lui-même homosexuel et qui doit vraiment faire face à la société. Que dans l'ensemble de cette semaine de la francophonie, du moins de le programme de Ciné Franco, on a voulu saupoudrer cette semaine avec justement des francophonies diverses. Mmh. Et donc, il est assez, je dirais, inhabituel de voir des films malgaches, par exemple.
Alors, Ngo Soa, une fiction presque réelle, une histoire de cœur à Madagascar, un film d'Edouard Joubeau.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un film de cœur. C'est très beau. Il y a du rythme, de la danse. Il y a justement une musique traditionnelle. Et puis, il y a aussi cette histoire de cette jeune femme célibataire et mère d'une petite fille qui doit absolument trouver de l'argent pour la scolarité de sa fille.
Alors, il y a des voix, des chants puissants qui font vibrer nos âmes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vois, Eric, que vous êtes vraiment passionné aussi de Madagascar. C'est
oui.
Magnifique. Justement, dans le saupoudrage, comme je disais, des francophonies diverses, nous avons un film qui s'appelle « Le sac de farine ». C'est une coproduction belgo-marocaine qui raconte un épisode de l'histoire du Maroc. Mais ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est un point de vue féminin. Donc nous sommes en pleine, en plein mois aussi du féminisme en un sens et du combat des femmes. Et on montre l'importance justement de l'éducation et de la langue française en particulier, de cette petite fille qui a été abandonnée littéralement dans un couvent belge et qui se retrouve par son père au Maroc et dans une ville où son père littéralement la dépose et cette petite fille recherche ces occasions de continuer son éducation et on lui offre de tricoter, de cuisiner, mais elle continue à garder la langue française, de la pratiquer comme elle peut d'ailleurs et c'est une langue qui va lui servir qui va beaucoup lui servir et servir aussi à ses amis pour essayer de parler de cette histoire immédiate du Maroc.
Et ce qui est intéressant, cette petite fille va grandir entre son oncle et sa tante, des gens simples, bienveillants, et ça aussi c'est une façon de transmettre la culture, hein?
Oui.
On a besoin de Ciné Franco, on a besoin de nos émissions pour justement faire rayonner la culture, pas seulement dans nos milieux restreints de Toronto, de l'Ontario, du Canada, mais il faut aussi dépasser les frontières, n'est-ce pas ?
Absolument, et on revient justement à la vitalité de la langue française.
Voilà.
C'est comme ça, justement, qu'on la partage, qu'on donne envie de parler par les chansons, par les poèmes.
Par l'humour.
Voilà, par l'humour, oui. Par le cinéma, par les répliques. Bref, c'est notre façon, effectivement, de chérir notre langue pour la partager avec les autres.
Alors, Thierry Lavignat, ça vous remercie. Merci beaucoup, Marcel.
Alors, de rien, monsieur.
Marcel Lynn, directrice artistique et fondatrice de Ciné Franco, un grand merci. Et on continue à faire de la promo avec nos bandes annonces de tous vos films. Bon mois de la francophonie, bonne journée internationale de la francophonie le 20 mars et que la force soit avec vous.
Eric.
Au revoir.
Au revoir.
Popourri Show et CUT 89,5 FM sont fiers de vous présenter la 34e édition du Mois de la Francophonie, ayant pour thème « Unissons-nous ». Découvrez le calendrier des activités de tous nos partenaires au Canada et à l'étranger. À tous les amateurs du cinéma, Ciné Franco vous donne rendez-vous lors des célébrations de la Semaine de la Francophonie. Du 20 au 27 mars, invitation au voyage. Visitez la programmation en mode virtuel sur cinéfranco.com. Et nous vous invitons à consulter la programmation complète du Mois de la Francophonie sur CUTFM à popourrichaud.com. Du 7 au 28 mars, célébrons en ligne la diversité de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Bon mois de la francophonie, unissons-nous. Et là, nous entendons un extrait d'un spectacle qui est en cours avec des artistes béninois, madame, monsieur. Bonne fête de la francophonie à tous nos amis africains qui sont branchés sur CUT 89,5 FM. Faire du français la langue de l'Internet, c'est le défi que s'est lancé Louise Mushikiwabo depuis qu'elle est à la tête de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Va-t-elle y arriver? Elle a aussi fait la déclaration suivante. L'Afrique est une partie motrice de la francophonie. Malgré la crise sanitaire, des organismes communautaires d'un océan à l'autre organisent plusieurs activités dans le cadre du Mois de la Francophonie. Je vous invite à visiter notre page pour avoir tous les détails, les liens nécessaires, popourrichaud.com. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, faites-nous part de vos projets, de vos activités, de vos initiatives durant ce Mois de la Francophonie qui se termine dans quelques jours en nous envoyant vos messages à popourri@cut.fm. Et puis dites-nous quelle est votre expression ou votre mot préféré de la langue française. Nous voulons tout savoir. Un de nos partenaires, le Centre de la Francophonie des Amériques, qui représente, je vous rappelle, 33 millions de francophones dans les Amériques, vous propose une série d'activités très très intéressantes, des voyages dans la francophonie, et tout ça c'est gratuit. Ateliers d'écriture pour les écoles, des spectacles, des récits historiques des Amériques, un balado sur la francophonie, de la poésie. Je vous invite à visiter le site web qui est très très bien fait d'ailleurs, francophoniedesamériques.com, francophoniedesamériques.com. Comment se porte la langue française au Québec, à Montréal? Plusieurs études suscitent débats, polémiques. D'ailleurs, un journaliste a écrit récemment « Nous sommes dans une situation totalement inédite où le poids relatif des francophones au Québec est en chute rapide, tandis que celui des anglophones augmente. » Qu'en pense notre prochain invité? Eh oui, mon invité est France Benjamin. Il est né à Port-au-Prince en Haïti et vit à Montréal depuis 1986. Il est père de deux enfants. Il a complété un baccalauréat en journalisme ainsi qu'un certificat en littérature à l'Université du Québec à Montréal. Il a été auparavant commissaire scolaire de la Pointe-à-de-l'Île de 1998 à 2008. Par la suite, conseiller de la ville de Montréal, représentant du district Saint-Michel. Président du conseil municipal de Montréal de 2013 à 2017, il est élu député de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière du Parti libéral du Québec lors des élections générales du mois d'octobre 2018. Il a publié chez Mémoire d'Encrier deux recueils de poésie, dits d'errance, publiés en 2004, 24 heures dans la vie d'une nuit, publié en 2010. Il a également co-dirigé Montréal vu par ses poètes avec Rodney Saint-Éloi en 2006. Début 2021, donc cette année, il a publié Nuit d'aisance pleine aux éditions Mémoire d'Encrier. Cela me fait plaisir d'accueillir France Benjamin. Je vous rappelle, c'est un entretien en deux temps. Nous aurons une petite pause et nous reviendrons juste après la pause. Homme engagé sur la scène publique, député de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec, président du caucus des élus de l'opposition officielle et porte-parole des dossiers jeunesse. J'ai même appris qu'il a d'autres talents cachés. Il fait de la radio, il a une passion pour la radio. Alors, monsieur France Benjamin, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va. Bienvenue à notre petit voyage intercontinental de cette 34e édition du mois de la francophonie à CUTFM. Vous savez, vous avez en notre compagnie plusieurs invités. Il y a des jeunes de différents pays, du Sénégal, de Madagascar, d'Haïti, de la Belgique, du Québec, de la France. Et donc, c'est une célébration assez spéciale. Et je vous remercie infiniment de votre participation à cette édition spéciale. Le 20 mars, comme vous le savez, la planète entière célèbre la francophonie et la langue française. Et chaque année, nous profitons de cette belle occasion pour jongler avec les mots, faire résonner cette langue, parler dans des endroits les plus retirés des fois, les plus éloignés dans toute sa diversité. Et cette année, Covid oblige. Tout se déroule en mode virtuel et peut-être l'année prochaine, qui sait, nous serons installés peut-être chez vous ou quelque part au Québec. Pourquoi pas? Il faut bien rêver un peu, hein, n'est-ce pas?
Bien sûr, absolument. Tout à fait. Alors, si vous choisissez le Québec, donc je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue.
Oui, très bien. Alors, c'est un honneur de vous accueillir pour célébrer la semaine de la francophonie qui démarre du 20 au 27 mars avec nos partenaires. Plusieurs activités en mode virtuel toujours sont organisées et à travers le Canada et même à travers les Amériques, parce que nous sommes 33 millions de francophones vivant dans les Amériques. Les gens oublient, n'est-ce pas? Alors, homme engagé, politicien et auteur francophone au Québec, est-ce que vous faites quelque chose de spécial lors de ces célébrations de la francophonie?
Écoutez, cette semaine, il est prévu que j'ai des rencontres avec des jeunes, notamment autour de la littérature. Donc, j'ai deux rencontres de prévues cette semaine, des jeunes de ma circonscription et des jeunes de la région d'Amaurice. Donc, afin qu'on va parler de littérature, de poésie. Donc, et ce sera dans le cadre, justement, de cette semaine de la francophonie. Donc, alors c'est ma façon à moi de célébrer la francophonie.
Alors, comme vous le savez, les gens connaissent très bien le Québec à travers la planète, mais très très peu des provinces hors Québec, comme l'Ontario, souvent méconnues, délaissées ou même méprisées par certains, y compris par vos compatriotes québécois, des journalistes, des médias dont on ne citerait pas ici. Mais vous, en tant que poète, en tant qu'écrivain, en tant qu'homme engagé, politicien, comment est-ce que vous vous y prenez à chaque jour dans votre vie pour vivre votre francophonie et surtout, de préserver la langue française?
Alors, d'ores et déjà, avant tout, je crois beaucoup dans cette idée de cette nécessaire solidarité francophone qui est pour nous plus que nécessaire pour le fait français, et non seulement au Canada, mais partout en Amérique. Et moi, au quotidien, comment je vis ça? Bien, évidemment, le français, c'est ma langue de travail, c'est ma langue dans la vie, donc c'est ma langue de création. Donc, évidemment, donc, je n'ai même pas à imposer cette langue. Alors, c'est une langue qui émerge d'elle-même, toute seule. Alors, et pour moi, c'est important aussi que dans mes relations, je représente une circonscription. Une circonscription montréalaise très diversifiée, avec une quarantaine de communautés différentes, de personnes. étaient du Sud-Est, issus du Maghreb, issus des Caraïbes, de l'Amérique latine et d'Europe, et d'Europe de l'Est un peu partout. Alors, la langue commune, je suis très fier de dire que la langue commune dans cette circonscription-là, c'est le français. Et c'est le français, et ça, on apprend le français, on communique en français, on commerce en français. Et ça, pour moi, c'est une des belles victoires qu'on a. Et ça, c'est des choses aussi, je crois, que nous essayons de, quand nous présentons. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu à prendre la parole à l'Assemblée nationale où je présentais ma circonscription. Je présentais ma circonscription, vitrine de la diversité, de la grande diversité québécoise et canadienne, mais avec le fait français comme langue commune de cette circonscription-là. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important aussi.
Oui. Alors, comme vous le savez, la francophonie peut être une valeur ajoutée, hein, comme on dit, pour le pays, pour le Canada, pour la province du Québec ou l'Ontario ou ailleurs. Mais ça aussi comporte des défis. Il y a aussi des façons de passer à travers les filets, et il y en a ceux qui sont exclus, on le sait. Alors, je vais vous, avant de parler un peu de vos œuvres, j'aimerais quand même parler d'un rapport. Vous savez, Québec est la seule province du Canada où le français est encore la langue qui domine, mais peut-être pas pour très longtemps, si on se fie à Charles Castonguay, professeur et chercheur de renom de l'Université d'Ottawa, auteur du livre « Le français en chute libre, la nouvelle dynamique des langues au Québec ». A-t-il raison, selon vous, quand il dit que le français est en chute libre au Québec? Est-ce que c'est vrai que le français dégringole à une vitesse de TGV pour nos amis français au Québec?
Mais, vous savez, nous avons raison tous et toutes d'être préoccupés par le fait français au Québec. Par moments, j'ai trouvé ce rapport-là un peu en tantinet alarmiste. Et moi, je suis plutôt du rang de ceux qui sont préoccupés. Vous savez, quand on regarde les statistiques sur les langues parlées, il n'y a jamais eu autant d'allophones qui comprennent et qui parlent le français. Jamais, auparavant, comme aujourd'hui. Les statistiques que les gens retiennent souvent pour présenter ces données alarmistes, c'est les statistiques sur la langue parlée à la maison. Vous comprenez avec moi qu'une famille d'immigrants, par exemple, je prends un exemple, une famille d'immigrants originaire soit d'Amérique latine ou de n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est, et ces gens-là ont appris le français, leurs enfants vont à l'école française, ces gens-là parlent le français au travail, ces gens-là parlent le français à l'école, parlent le français dans les commerces, mais quand on retient seulement les statistiques de la langue parlée à la maison, mais ces gens-là, c'est normal qu'ils veulent transmettre aussi leur langue maternelle, l'espagnol par exemple, à leurs enfants. Alors, c'est sûr que quand on retient seulement les statistiques de la langue parlée à la maison, on a une situation qui est alarmiste.
Alors là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et j'aimerais qu'on reprenne, parce qu'il y a beaucoup de vos amis québécois et surtout des médias qui nous écoutent parce qu'ils réagissent à ce qu'on dit à cette émission. Certains médias, journalistes polémistes au Québec, passent leur temps à dénigrer la francophonie hors Québec. Nous avons tous suivi les propos d'une certaine Denise Bombardier, d'un certain Mathieu Bock-Côté et bien d'autres qui accusent le Québec, le gouvernement du Québec, d'un certain laxisme en matière de politique d'immigration qui soi-disant accueille trop d'immigrants qui ne parlent pas le français. Et il suggère même au gouvernement provincial et fédéral de serrer la vis et d'accueillir uniquement des gens parlant le français. Il juge cette situation inquiétante car la disparition du français ferait perdre au Québec son caractère distinct. Pensez-vous que c'est réaliste d'adopter une telle stratégie afin de contrer la montée de l'anglais au Québec?
Absolument pas. C'est justement, c'est une stratégie qui serait, selon moi, une stratégie perdante pour le Québec. Le Québec, aujourd'hui, ne peut pas se priver d'avoir une immigration compétente, une immigration diversifiée, une immigration qui bonifie différents aspects de la société québécoise, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique, etc. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est quels sont les moyens, quelles sont les ressources que le gouvernement du Québec dispose pour, par exemple, soutenir la francisation, par exemple, au niveau des commerces, par exemple. Il y avait un programme. Il y avait un programme qui donnait des résultats. Vous savez, c'est une aide financière qu'on donnait, qui permet aux étudiants universitaires, qui sont des étudiants en langue, en littérature, de soutenir en donnant des ateliers de français à des commerces dans les rues de Montréal, particulièrement dans l'ouest de Montréal, dans le centre-ville de Montréal. Vous savez, l'enjeu qu'on a avec le français actuellement, c'est surtout un enjeu du centre-ville de Montréal. Moi, comme je l'ai dit, je vous le rappelle, je représente une circonscription qui est dans le centre-nord de Montréal, et nous n'avons pas cet enjeu-là. Moi, je circule dans tous les commerces de mon quartier, je n'ai aucune difficulté à me faire servir en français. Et ça, c'est un fait, et je l'affirme, et je le confirme. Maintenant, l'enjeu qu'on a, c'est l'enjeu du centre-ville. Ce qui doit être fait, ce n'est pas tellement en termes de répression, mais c'est surtout en termes de soutien. Comment soutenir le fait français? Et parlant de soutenir le fait français, moi je suis de ceux qui pensent aussi que nous ne pouvons pas soutenir seulement le fait français au Québec sans avoir cette relation, cette grande relation de solidarité avec l'ensemble des francophones partout au Canada. Et ça, pour moi, je pense que c'était très, très important.
Et j'aimerais que vous soyez le prochain ministre de l'immigration ou de la langue française au Québec, je vous le souhaite. Mon invité aujourd'hui, madame, monsieur, dans le cadre des célébrations de la semaine de la francophonie, monsieur France Benjamin, homme politique, président du caucus libéral des élus de l'opposition officielle et porte-parole des dossiers jeunesse à l'Assemblée nationale du Québec. Vous détenez un baccalauréat en journalisme ainsi qu'un certificat en littérature à l'Université du Québec à Montréal. C'est votre deuxième passage à notre émission. La première fois, c'était lors du mois de l'histoire des Noirs, au mois de février. Plusieurs auditeurs vous trouvent très bien derrière un micro. D'ailleurs, j'ai devant moi un article qui dit ceci. Après avoir milité pendant des années contre le profilage racial et gravi les échelons menant à l'Assemblée nationale, le député montréalais France Benjamin a relevé un nouveau défi en pleine crise sanitaire, animer une émission de radio. Faut bien préciser que c'était une émission non partisane.
Absolument.
Alors, auteur, animateur, est-ce que c'est votre façon à vous de vivre aussi votre francophonie, d'être solidaire aux Québécois, à la francophonie en général?
Absolument, c'était pour moi une façon, puisque comme député, évidemment, nous étions appelés à appuyer, par exemple, les groupes communautaires qui donnaient en aide aux gens. Parce que vous savez, cette crise sanitaire n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique, et avec des retombées catastrophiques pour différents milieux. Dans ma circonscription, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Et il y a des familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain fragilisées au niveau économique. Donc il fallait soutenir ces gens-là, ces familles-là. Donc ce sont les groupes communautaires que nous, à notre tour, nous avons appuyés pour le faire correctement. Les jeunes aussi ont été les grandes victimes. En fait, l'angle mort de cette pandémie, c'est les jeunes, à différents points de vue. Les jeunes au niveau éducation, les jeunes au niveau de la santé mentale. Et ça, c'est vraiment un grand enjeu. Il fallait faire des actions. Mais en même temps, je me disais, et comment s'assurer, par exemple, que les gens, non seulement au niveau de cette transmission de l'information importante dans cette crise pandémique, mais aussi comment accompagner les gens. Alors c'est comme ça qu'est arrivée tranquillement cette invitation qui m'avait été faite d'animer une émission de radio, et ça je l'ai fait pendant quand même plusieurs mois durant la crise. Donc une émission non partisane où j'invitais à la fois tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, des gens des groupes communautaires, des entrepreneurs, des élus aussi, des élus de tous les partis, de tous bords, de tous côtés, pour ensemble échanger, discuter, partager justement cette solidarité si nécessaire dans une période de crise.
Et il faut dire aussi qu'il y a une histoire chez beaucoup de politiciens, de députés, qui après avoir fait carrière au niveau politique, se retrouvent derrière un micro ou à la télévision, n'est-ce pas? Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant vos œuvres littéraires. Je le dirais, quand on regarde un petit peu votre goût de l'écriture, et je regarde ici nos sources vérifiées, hein, parce qu'on vérifie toujours nos sources, nous avons même passé au peigne fin certaines sources, vous avez dit, et je cite, « J'ai confié à un groupe d'élèves, il y a pas longtemps, que je n'ai jamais appris à écrire. Je leur disais que j'ai appris seulement à devenir un homme libre. » Libéré du poids des œillères et de l'asphyxie mentale. Ainsi a commencé une quête poétique qui débute par l'errance, dit d'errance poésie aux éditions Mémoires d'Encrier, publiée en 2005 à Montréal. Et puis, il y a eu 24 heures dans la vie d'une nuit, toujours aux éditions Mémoires d'Encrier, une œuvre qui nous plonge sous les feux des ombres miraculeuses, qui marque la présence et la fulgurance, qui métamorphose les ténèbres en éclats de lumière. 24 heures dans la vie d'une nuit est suivi de secousses, un ensemble de textes écrits en hommage au courage du peuple haïtien. Pour quelqu'un qui vient tout juste de commencer à écrire, c'est pas mal du tout, hein, il faut le faire. Est-ce de la modestie ou plutôt vous attendez surtout une reconnaissance par vos pairs ou le monde dit officiel de la culture, car pour beaucoup d'écrivains d'origine haïtienne, maghrébine ou africaine, on me rapporte régulièrement qu'ils ne trouvent pas si facilement leur place au sein de la grande famille francophone, que ce soit au Québec ou au Canada, hein. D'ailleurs, vos œuvres sont publiées chez Mémoire d'Encrier, qu'on connaît très bien. Tout cela dit tout, n'est-ce pas? Alors, expliquez-nous un petit peu ce parcours qui vous a lancé dans l'écriture sans admettre publiquement, officiellement, que vous êtes quand même un grand écrivain.
Ben, merci beaucoup. Merci pour l'appréciation. Donc, vous savez, et l'enjeu de la reconnaissance, c'est un enjeu... Que j'aborde avec beaucoup de précaution, puisque en fait ce que je veux dire par là, c'est que on écrit avant tout, en fait, c'est mon cas, moi j'écris avant tout pour être libre, pour pouvoir dire ce que j'ai envie, pour pouvoir partager avec d'autres si l'éditeur trouve nécessaire de me publier, donc ce que j'ai à dire, ce que j'évoque. Maintenant, toute cette idée de la reconnaissance, c'est vrai, effectivement, que dans l'espace littéraire francophone, il est encore, malgré que les francophones, quand on fait la géographie de la francophonie, donc malgré que les francophones soient majoritairement en dehors de la France, en dehors du Québec ou en dehors de la Belgique, il est très encore difficile pour beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains francophones de pouvoir faire la place, d'avoir la reconnaissance qu'il ou qu'elle mérite donc dans l'espace littéraire francophone. Bon, parce que, mais ça, dans mon cas à moi, une chance que ce n'est pas ce qui anime mon travail d'écriture, ce n'est pas ce qui anime mon expérience d'écriture. Ce qui anime mon expérience d'écriture et ce qui me réjouit, tout simplement, c'est de pouvoir... À la fin, une fois une œuvre publiée, l'œuvre ne m'appartenant plus, c'est pouvoir rencontrer, par exemple, et comme je le fais depuis les dernières semaines sur les réseaux sociaux, une lectrice, un lecteur qui m'envoie un message d'appréciation pour me dire, par exemple, je partage avec vous ce message que j'ai reçu d'une dame qui me dit, écoutez, monsieur Benjamin, je travaille dans le secteur de la santé. Je n'aime pas lire d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu parler de votre recueil, je l'ai acheté et je lis un texte à chaque jour et ça me fait du bien. Vous voyez, ça c'est mon plus grand salaire comme poète. C'est-à-dire, quand on arrive à faire ça, et puis je me réjouis de cela, je ne me contente pas de cela évidemment, mais je m'en réjouis tout simplement.
Mais vous savez, il y a aussi ce besoin de découverte chez nos auditeurs, chez les lecteurs. C'est à nous de leur proposer quelque chose de différent. Et je pense, en parlant avec toujours des amis poètes, écrivains, qui résident ici depuis 60 ans et même plus, et ils trouvent que justement les maisons d'édition, ou certaines maisons d'édition, ne veulent pas prendre de risques pour proposer de la différence à leurs lecteurs, à leurs auditeurs. Et même dans les médias traditionnels, on le voit. Hein. Alors... Comment faire? Parce que nous, on regarde depuis que nous sommes là depuis bientôt 35 ans, on fait des choses complètement différentes des autres médias, mais les gens en redemandent parce que justement, ils veulent voyager à travers la musique, à travers les poésies, à travers nos invités. Et il y a cette soif chez les francophones, chez les auditeurs, chez le monde en général, de se dépayser, d'aller dans ce monde imaginaire. Hein, et les médias, la radio, la poésie, nous pouvons le faire, n'est-ce pas?
Absolument. Et c'est là aussi, je crois, que le grand défi francophone du Canada et du Québec en particulier, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des ER, de laisser tomber les ER, d'aller dans des territoires non connus, c'est-à-dire de ne pas se limiter, de ne pas avoir le réflexe qui est celui de dire, nous allons aborder ce qu'on connaît, mais d'aller aussi, d'être des défricheurs, d'aller aussi dans des territoires qui sont porteurs de diversité, porteurs de nuances, porteurs de différences. Et c'est là qu'on va véritablement s'enrichir. Et donc là, j'en profite par exemple pour saluer le travail par exemple qu'une maison d'édition comme Mémoire d'Encrier fait depuis plusieurs années. Quand je regarde par exemple le catalogue autochtone par exemple de Mémoire d'Encrier, c'est quelque chose de fulgurant. C'est-à-dire combien d'auteurs autochtones que le Québec, que le Canada français a découvert, le Canada francophone a découvert, mais grâce à Mémoire d'Encrier qui a jugé bon de donner la voix, de donner la parole aux auteurs autochtones. Par exemple, moi j'ai fait un concert littéraire avec Dania Ferrière, Joséphine Bacon, c'était à Port-au-Prince dans le cadre des rencontres littéraires québécoises en Haïti, et entendre Joséphine Bacon, grande poétesse inoue, en train de dire dans une salle bondée de Port-au-Prince ses poèmes en inou et observer ce silence presque de cathédrale, les gens tellement attentifs et attentionnés par la voix de Joséphine Bacon, par ses mots, je me dis, c'est ça le miracle de la littérature, c'est ça le miracle de la culture.
Alors avant de passer à votre dernier livre, Nuit d'aisance pleine aux éditions Mémoire d'Encrier, j'aimerais lire un court extrait de votre texte présentant 24 heures dans la vie d'une nuit. Vous écrivez, pour le poète, la nuit est un faisceau de lieux, de formes, où tout semble prendre fin. Comment l'évoquer dans sa traversée du temps? La nuit a sa poésie propre, sa musique, son parfum. Il suffit de s'y abandonner pour entrer doucement dans sa ferveur. Ainsi la poésie l'habite. Je suis l'odeur de la pluie, le visage de la ville, un jour de fête. Je suis de liane, de tornade et de cécité, chanson grave et lèvres désaccordées. Par la promesse du buvard, j'attends que les mains de la nuit se referment pour me faire papier, taillé à la mesure de tes encres. Je suis cet homme, chiffon, dessiné pour l'oubli. Ce texte transporte le lecteur de votre état d'âme, des textes très sensuels, et vous aimez évoquer la nuit dans vos poésies. Je remarque que c'est presque dans tous vos textes. Est-ce que la nuit vous inspire plus que le jour?
Ah, définitivement, je n'ai pas un rapport de repos avec la nuit. En fait, moi, j'entre dans la nuit comme un bûcheron, comme un ouvrier. Et avec la nuit, et je fais corps à la nuit. La nuit, pour moi, n'est pas qu'un lieu de temps, un lieu temporel. La nuit, pour moi, c'est un ami, c'est un confident et qui m'aide, justement, qui aide ma poésie particulièrement à trouver sa forme et à pouvoir s'exprimer. Et je ne suis pas le seul. Je partage cela avec beaucoup, beaucoup d'autres écrivains. Et il y en a un qui me vient en particulier en tête. C'est un auteur de nouvelles qui s'appelle Raymond Carver. Raymond Carver qui a écrit entre autres La Gloriette, qui a été prix Pulitzer. Et Raymond Carver n'écrivait que la nuit seulement. Et la nuit pour lui, qui était justement ce que je viens de définir, un lieu de travail, un lieu d'activité intense au niveau de la création.
Est-ce que écrire pour vous la nuit, est-ce que c'est un genre de refuge pour vous?
Ah non, non, puisque vous savez, quand je moi d'habitude le jour, par exemple la semaine, je suis à l'Assemblée nationale et je passe toute la journée à l'Assemblée nationale. Et une fois que je rentre chez moi, donc alors le politicien enlève son costume, en fait, enlève son costume de politicien, d'homme public, pour arborer plutôt son habit de poète. Alors c'est comme un comédien, c'est comme un comédien qui rentre en scène. Alors il rentre en scène, alors à ce moment-là que c'est dans la nuit justement que j'arbore mon costume de poète pour pouvoir travailler comme poète, pour pouvoir rêver et écrire.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Ici, c'est toujours numéro 1. Numéro 1 en Guadeloupe, numéro 1 en Martinique. Énergie Antilles, numéro 1 sur les gifts. Numéro 1 sur les cadeaux. Numéro 1 sur la proximité avec les auditeurs. Numéro 1 sur les artistes. Numéro 1 sur les concerts. Numéro 1 sur la bonne humeur. Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Oula, pas évident. Salut, c'est Nicolas Georges, un didgeridoo, un boomerang. Vous l'avez deviné, je vous emmène en Australie, à Sydney, très exactement, pour le tour du monde de la francophonie. L'Australie, où de plus en plus de francophones s'installent depuis une quinzaine d'années. On découvrira leur nouvelle vie dans ce pays continent. Et puis, une question également. Dans un pays à 80% anglophone, quelle est la place de la langue française et de la culture francophone? On en parlera avec mes invités sur le plateau, des invités du milieu culturel et artistique, des acteurs, des comédiens, des responsables d'événements et de festivals. Et puis vous, vous pourrez également réagir sur les réseaux sociaux, hashtag TDMF. Allez, vous venez avec moi? Je pense que ça va être assez sympa.
Ici Eric Kader, Popouri Show et CUT 89,5 FM sont fiers de vous présenter la 34e édition du Mois de la Francophonie, ayant pour thème « Unissons-nous ». Découvrez le calendrier des activités, les jeux concours, les rendez-vous francophones de tous nos partenaires au Canada et à l'étranger. À tous les amateurs du cinéma, Ciné Franco fête avec enthousiasme la semaine de la francophonie du 20 au 27 mars et vous donne rendez-vous au voyage. Une programmation en mode virtuel. Visitez cinéfranco.com. Et nous vous invitons à consulter la programmation complète sur popourishow.com. Pour toute question, popourri@cut.fm. Du 7 au 28 mars, célébrons en ligne la diversité de la francophonie.
Alors, votre dernier ouvrage, apparu en février 2021, c'est récent, « Nuit des anses à plein aux éditions Mémoire d'Encrier », un très beau livre que j'ai entre les mains. Dans le prologue, vous écrivez « Au fil des mots et des jours, je rassemble à ces morceaux d'existence pour en faire un poème. Tard la nuit, je reprends les routes de la solitude. Une fois de plus, la nuit vous inspire. Je ressens dans ce dernier livre, ce besoin pressant de gueuler, de crier haut et fort, un message sous forme de SOS. Vous dites, pourquoi écrire? Simplement pour exister en dehors du bavardage et de la mise en quarantaine de l'amour et de la liberté. Mon engagement citoyen à titre d'élu auprès des femmes et des hommes de Saint-Michel depuis 12 dernières années m'a appris à connaître les possibilités mais aussi les limites de l'action politique. J'écris donc de la poésie pour aller au-delà du possible. Il est rare de voir un politicien se mettre à nu devant son public. Nous savons que tous, qu'avec ce que vous avez dû faire des choix assez difficiles quand on regarde votre parcours au niveau politique, ça a été pas toujours facile, comme on dit. Est-ce que vous tentez à votre façon, à votre niveau, de changer la façon, la manière de faire de la politique?
Ah oui, nécessairement, puisque je crois que, vous savez, année après année, mois après mois, quand on fait des sondages sur l'appréciation des différents corps de métier, des différentes professions, les politiciens arrivent presque toujours au bon dernier. Et il y a encore toutes sortes d'images négatives à coller aux politiciens. Moi, ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de rappeler tout simplement aux gens, c'est deux ou trois choses. La première, c'est que celui qui choisit de faire de la politique, d'être un élu, c'est quelqu'un qui est au service du public, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui sert les gens. Et la deuxième chose, c'est d'être vrai. C'est de ne pas avoir de fausses postures. Et moi, ma vérité, c'est mon statut de poète qui m'aide à porter cette vérité-là. Et je dis souvent que mon travail de poète nourrit beaucoup mon action politique aussi, puisque mon travail de poète m'a permis de développer des sentiments, par exemple, comme l'empathie, comme la bienveillance, et aussi, évidemment, ce goût effréné pour la culture, parce que je crois beaucoup que la culture, c'est pas seulement... la culture est aussi une arme d'éducation, c'est une arme aussi pour rassembler, pour réunir les gens. Et à travers différents projets, d'ailleurs, par le passé, nous avons pu faire l'expérience. Donc, voilà.
J'ai un texte devant moi qui dit « Je m'accoutume à l'idée qu'un jour, tu laisseras brûler tes ailes. Ce jour-là, tu voleras sans peur. Tes songes dans l'allégresse des vagues plus haut que la mer, tu voleras plus loin que la terre, tu voleras. » C'est tellement profond, hein. Ce sont des textes très courts, très succinct, très facile à lire, un langage, je dirais, facile à comprendre, où que vous soyez, hein, en Afrique, à l'île Maurice, en Inde, aux États-Unis, parce qu'ils sont nombreux à nous écouter aux États-Unis. On nous écoute au Texas, imaginez-vous.
Mes salutations aux francophones, aux francophiles du monde entier, des États-Unis, du Texas, de partout.
Et la Louisiane, on célèbre beaucoup la Louisiane, parce qu'on sait que c'est tout un défi de préserver la langue française en Louisiane, n'est-ce pas?
D'ailleurs, la Louisiane, que j'ai visitée il y a quelques années, c'était à l'invitation de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, où j'avais été rencontrer plusieurs francophones de la Louisiane, donc je les salue, les Louisianaises et les Louisianais.
Nuit des Anses pleines aux éditions Mémoire d'Encrier, vous retrouverez tous les liens sur notre site popourichaud.com, comme ça vous pourrez passer votre commande. Ce sont des livres de chevet, des livres de voyage, très faciles à transporter, des livres de poche. Le poème invoque corps et présence, le désir remonte lac, rivière, fleuve, mer, l'univers liquide donne à voir et à rêver, la seule espérance plongée au cœur du sentiment. Je marche campé entre deux eaux jusqu'à tes yeux, il n'y a pas de miracle, renouvelé de promesses, femme de mes 10 doigts. Et oui, alors, il y a même une critique, une belle critique dans le journal La Presse, Éric Clément qui écrit « Un hommage à la femme, un clin d'œil à la féminité que chaque homme a plus ou moins en lui. Plus au ciel pourrait-on ajouter après avoir achevé ce petit bijou de poésie. » C'est très beau. Et avant de se quitter, quel est votre mot préféré de la langue française, Monsieur France Benjamin? Ah oui, ça veut tout dire. Monsieur France Benjamin, homme engagé sur la scène publique, député de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec, président du caucus des élus de l'opposition officielle et porte-parole des dossiers jeunesse. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci de nous avoir présenté un de vos collègues qui sera bientôt des nôtres avant la fin de ce mois de la francophonie. Bravo pour votre engagement, vos œuvres littéraires et merci surtout de votre disponibilité. Nuit des Anses pleines. Tous les liens, encore une fois, je le répète, sont disponibles sur notre site. Et nous pensons à ceux et celles qui souffrent, n'est-ce pas, suite à cette pandémie. J'espère que l'année prochaine, nous serons ensemble, regroupés, pour fêter la langue française dans sa beauté. Je vous souhaite une très bonne semaine de la francophonie et que la force soit avec vous, Monsieur France Benjamin.
Merci beaucoup, Monsieur Calder. C'est toujours, comme d'habitude, très agréable de converser avec vous. Et merci à tous les auditeurs et auditrices de la station. Continuez d'écouter cette station qui fait de bien bonnes choses pour l'ensemble de la collectivité francophone. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Supportant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique. cris, les rires qui éclatent, rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons que ce corps. Et le faisant ses forts, nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés, heureux. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle parandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois sous le mélo, nos corps s'enlacent et s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés, heureux. Son sourire me transmet et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings en bénissant la foule qui me vole, l'homme qui m'a donné que je n'ai jamais retrouvé.
Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de 7 jours en France. Une édition spéciale cette semaine parce que, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas en France, mais en Tunisie et plus précisément à Sousse, où se déroule le premier festival de la francophonie. La francophonie, et plus particulièrement la francophonie en Afrique, c'est le sujet qui nous intéresse cette semaine. Bienvenue. Mais d'abord, quelques statistiques. Combien y a-t-il de personnes qui parlent français dans le monde? Et surtout, de qui s'agit-il? On voit ça tout de suite en chiffres et en images.
millions de personnes parlent français dans le monde. Et pour le président Macron, la francophonie est un atout essentiel dans la mondialisation. La surprise, les francophones sont plus nombreux en Afrique qu'en Europe. En 2014, ils étaient 150 millions sur le continent africain, contre moins de 100 sur le vieux continent. Venaient ensuite les 20 millions des Amériques et des Caraïbes, suivis de loin par les 2 500 000 du Moyen-Orient et d'Asie, et le petit million océanien. Une tendance qui devrait encore s'accentuer puisque 85% des francophones pourraient se trouver en Afrique en 2050. Mais d'après l'Organisation internationale de la francophonie, ces chiffres ne pourront être confirmés que si ces 54 États membres renforcent l'enseignement de la langue de Molière. Avec 700 millions de francophones, elle deviendrait la langue la plus parlée dans le monde. Actuellement, le français arrive en 5e position derrière l'arabe, l'anglais, l'espagnol et le mandarin qui culmine avec 848 millions de locuteurs.
RFI, toute la diversité du monde.
Ah, bonjour le français. Si comme moi, vous avez du mal à prononcer la langue française, c'est pas votre faute. C'est la faute de la langue française. Parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O. Après, je mets un X. Mais je prononce pas. C'est vrai que la prononciation n'est pas évidente. Parce qu'il y a un grand décalage entre ce qui est écrit et ce qu'on prononce. Moi, je l'ai appris à mes dépenses. Excusez-moi, monsieur. Où est Barb's Rochechwart, s'il vous plaît? Eh oui, vous adorez mettre des lettres à la fin de mots juste pour les ignorer complètement. Et souvent, ce sont des lettres très obscures, comme les Z ou les X. Moi, je pense que les moines qui ont retranscrit la langue française pendant le Moyen-Âge voulaient juste gagner au Scrabble.
Joyeux E-U-X.
Mais il n'y a pas un X à joyeux.
Eh ben maintenant, si. 76 points.
D'accord, ok. Moi, je fais alcool avec deux O.
Eh ben, reprendrez-vous un peu d'alcool, mon frère.
Volontiers.
Santé.
En fait, les lettres muettes sont comme des terrains de golf. Elles prennent beaucoup de place, elles ne servent pas à grand-chose, à part de te donner l'air chic. Surtout le E muet. Il faut complètement ignorer l'existence de cette lettre. Sauf si tu chantes de la chanson française. Que je t'aime, mais la langue française n'est pas seulement compliquée, elle est aussi sensuelle. Par exemple, au lieu de prononcer la lettre R, vous préférez juste ronronner.
J'adore le sacré cœur de mon martre.
La régionale des Grandes Prairies.
Bonjour, de la famille Shepherd à Plamondon.
Hello, bonjour, from Calgary.
Et beau bonjour, d'Edmonton.
Bonjour.
Allô, allô.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, mon nom est Linda Baudette et je suis présentement à Grande Prairie.
Je suis Raphaël Omlaye de la communauté ivoirienne de Calgary.
Je m'appelle Honoré Jamy. Je suis enseignant à l'école francophone Nouvelle Frontière à Grande Prairie.
Bonjour, ici Christelle Plamondon pour la CFA Plamondon-Lac-Lebiche.
J'aimerais vous souhaiter un super de beau mois de la francophonie.
Bon mois de la francophonie albertaine.
Bon mois de la francophonie albertaine.
Bon mois de la francophonie.
Vivre ensemble au sein de la francophonie ici en Alberta est notre force. Vive la francophonie albertaine.
À tous les Albertains et les Albertaines d'expression française, nous pensons à vous pendant ce temps de confinement. Et c'est à distance que nous célébrons ensemble le mois de la francophonie.
On vous aime!
On vous aime!
Un grand merci à tous les travailleurs de la santé qui prennent bien soin de nos communautés. On pense à vous.
À tous les jeunes qui continuent d'étudier en français.
En classe ou virtuellement.
À tous les jeunes dont le français n'est pas leur langue maternelle, mais qui sont en train d'apprendre cette belle langue. And to all the parents who support them. Bon mois de la francophonie.
Vive la francophonie!
Vive le mois de la francophonie!
Bon mois de la francophonie. Je vous souhaite une année remplie de bons moments ensemble, de loin ou de proche, entre amis et en famille.
Avec un peu de musique et un peu de danse, amusez-vous!
Vive la francophonie!
Vive la francophonie!
Vive la francophonie albertaine!
J'ai bien hâte de vous serrer dans mes bras, toute la communauté. On va danser, chanter, s'amuser.
Alors, bon mois de la francophonie. Mais d'abord, qui sont ces francophones? Qui sont les vrais francophones? Ces acteurs, actrices de la francophonie régionale, provinciale, nationale et mondiale? Pourquoi tant de francophones ne connaissent-ils toujours pas les organismes francophones, les médias francophones? Pourquoi? Et à quoi ça sert le comité consultatif francophone à l'Hôtel de Ville de Toronto? Quelles sont ses réalisations? Voilà la question. 2 ans après la crise linguistique et les manifestations contre le gouvernement ontarien, où en sommes-nous? Comment voyez-vous l'avenir de la francophonie canadienne? Que pensez-vous de la crise que traversent l'Université Laurentienne et l'Université de l'Ontario français? Connaissez-vous les défenseurs de vos droits en tant que francophone? Quel message à Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, veut-elle faire passer? Quelles sont les plus belles expressions de la francophonie? Quelles sont ces émissions préférées de ces jeunes Africains? Eh oui, ils écoutent, ils sont des mordus des médias francophones surtout. Et puis les médias sociaux nuisent-ils à la qualité de la langue française? Pourquoi les jeunes Canadiens ne sont pas si friands aux médias francophones? Eh oui, pourquoi? Ce sont des questions importantes. Et si vous avez des réponses à nos questions, écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm.
CIUT 89.5, Toronto.
Avec l'appli Les Indes Radios, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, écoutez nos radios et web radios en direct. Un titre vous plaît? Ne le laissez pas filer. Réécoutez-le instantanément ou ajoutez-le à votre playlist pour le retrouver plus tard. Déjà 2 millions de téléchargements. L'appli Les Indes Radios, la bonne des radios.
Yeah. Moi je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation, Diversity of Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média. Croix Rouge canadienne, merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents.
Bonjour Marcel, mais qu'est-ce que vous écoutez comme ça? Ah, vous dites pas pour chaud. Ah, c'est cette émission que j'écoutais dans ma jeunesse. Justement, ils ont tout un spécial sur la francophonie tout au long du mois de mars.
Du 7 au 28 mars 2021, pandémie ou pas, célébrons le mois de la francophonie et unissons-nous. Du 7 au 28 mars à 2021, Popourri Show CUT 89.5 FM et ses partenaires vous invitent à célébrer la langue française dans toute sa diversité avec des activités virtuelles, gratuites et diversifiées. Jeux concours, 5 films de ciné franco sous-titrés en anglais à visionner en ligne pendant les vacances scolaires du 9 au 18 avril. Les découvertes, les coups de cœur littéraires des éditions prises de parole, les mots ou les expressions les plus imagées, les plus bizarres utilisées à travers les différents pays francophones. Une voix, une chanson, une ville, des concerts, des spectacles numériques et le tout assaisonné avec une sauce très pimentée, exotique, enrobée d'une dose d'humour. Du 7 au 28 mars, soyez de la fête, soyez de la fête de la francophonie. Une expérience unique, exceptionnelle sur CUT 89,5 FM. Et n'oubliez pas de visiter notre site web pour les mises à jour, popourichaud.com ou cinéfranco.com. Mois de mars, mois de la francophonie, unissons-nous. Cette 34e édition est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, Marcel Line de Ciné Franco, les éditions Prise de Parole, De la Communication, Les Français de l'étranger à Gatineau et Ottawa.
Marcel, est-ce qu'on nous sert du pop-corn avec tout ça?
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Eh oui, joyeuse semaine de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Et merci de votre fidélité. Là, nous sommes avec DJ Christian, le remix du meilleur compas live en Haïti. Je vous rappelle, madame, monsieur, que j'ai un très beau livre entre les mains. Il me reste encore une copie, un livre « Simplifiez-vous la cuisine, s'organiser en 10 étapes » de Lucie Balladier. Un livre que vous devez absolument avoir chez vous, dans votre cuisine, si vous voulez réapproprier votre alimentation, cuisiner de façon efficace des aliments sains et au maximum de leur potentiel. Envoyez-nous un message immédiatement, popourri@cut.fm, et bonne chance. Je vous invite à célébrer la semaine de la francophonie avec Ciné Franco qui vous offre des films d'évasion, des films qui nous plongent dans des cultures, des traditions et les mœurs des pays francophones. Durant toute la semaine de la francophonie, vous avez encore quelques jours jusqu'au 27 mars. Je vous invite à visiter le site web cinéfranco.com et surtout, inscrivez-vous, faites vos choix le plus rapidement possible. C'est pas cher et en toute liberté, vous pouvez visionner les films de votre choix, cinéfranco.com. Et je viens d'apprendre, peut-être nous aurons avant la fin de l'émission une entrevue exclusive avec Philippe Lesage, réalisateur du film Les Démons, qui est à l'affiche sur le site de Cinéfranco. Et puis je vous rappelle, la prochaine conférence du CREFO sera en mode virtuel, Covid oblige, que voulez-vous, identité professionnelle et rôle du personnel enseignant dans les écoles de langue française en Ontario. Et la conférencière est Chantal Fournier, c'est prévu pour le mercredi 7 avril de 17h à 18h30 par vidéoconférence ou en mode Zoom si vous préférez. Vous devez absolument vous inscrire sur Eventbrite, sur CREFO.com. oisi.utoronto.ca ou allez sur notre site tout simplement popourichaud.com pour avoir tous les liens nécessaires. Oui, dimanche prochain, émission de clôture, professeur Emmanuel Lepichon-Wortzmann, directrice du CREFO, sera des nôtres. Elle sera peut-être la co-animatrice, qui sait. Et je vous rappelle que dimanche prochain, notre partenaire Les Éditions Prise de Parole nous présentera En cas d'incendie, prière de ne pas sauver ce livre. Un livre écrit par un collectif d'écrivains sous la direction de Catherine Voyer-Léger. Et elle sera des nôtres la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'elle a publié 6 livres, dont Métier critique, aux éditions Septentrion. Comment se porte la langue française en Haïti? Voilà la grande question que j'aimerais poser à mon prochain invité. Il est un ancien étudiant en communication sociale à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. D'Angelo Néard compte plusieurs années d'expérience dans le monde culturel haïtien. Il est présentateur de l'émission culturelle très connue sur la planète, et oui, une émission hebdomadaire intitulée « Cause Kilti », diffusée sur Radio France Internationale, placée sous le signe de l'énergie positive. Cette émission présente l'actualité culturelle de la semaine en Haïti et dans le monde, ainsi que les talents, les personnalités qui font rayonner et bouger le pays. Il est aussi chroniqueur littéraire, présentateur de l'émission hebdomadaire télévisée « Des livres et vous ». Diffusé sur la télévision Caraïbe depuis 2016. Suivant ses propos, l'émission, dans son ensemble, se veut être un espace de parole, de transaction et de performance intellectuelle et artistique qui alimente au sein de la collectivité la passion du texte, l'envie de lire et le goût du partage intellectuel. Par arrêté présidentiel du 24 avril 2020, publié dans le journal officiel du pays, c'est-à-dire d'Haïti, le moniteur d'Angelo Néard est nommé directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Madame, Monsieur, accueillons Monsieur le grand maître d'Angelo Néard. Alors, tout un honneur de vous accueillir dans notre édition spéciale du mois de la francophonie. Nous avons plusieurs invités à cette émission spéciale en provenance de Madagascar, la Belgique, le Bénin, le Sénégal, Montréal et bien sûr vous en Haïti. Une première de vous recevoir en direct car on connaît bien la voix de l'émission Cause Kilti sur RFI et votre chronique des livres et vous sur Radio-Télévision des Caraïbes. C'est notre 34e édition du mois de la francophonie à Toronto, à la radio CUTFM, et parmi les nombreux auditeurs branchés chaque dimanche, on y retrouve beaucoup d'Haïtiens à Montréal, à Ottawa, à Toronto, qui vous suivent de près ou de loin. Ils brûlent d'impatience de vous entendre. Nous vivons des moments inédits suite à cette crise sanitaire. La culture en prend un coup. Et nous devons nous réajuster comme font tant d'autres. Programmation du mois donc décalée. Et je sais qu'il y a tout un débat sur les manifestations du carnaval le mois dernier en Haïti. D'ailleurs, je pourrais même parler d'une double crise que traverse Haïti en ce moment. En deux mots, comment les Haïtiens vivent-ils ces crises?
Alors, je salue un peu partout à travers le reste du monde via la magie du web. Et c'est vrai que malheureusement, et pour l'instant, en Haïti, il y a des poches de crise un peu par-ci, un peu par-là. Mais je dirais, c'est un peu comme partout dans le monde. J'imagine qu'il y a des crises à Montréal, qu'il y en a à Paris, qu'il y en a à Londres, et qu'il y en a malheureusement en Haïti également. Mais la crise qu'il y a en Haïti reçoit une réaction très très digne de la part des Haïtiens. On sent qu'il y a toujours quotidiennement un combat pour garder vif le flambeau de la vie. On sent qu'il y a tous les jours un combat pour que la créativité artistique demeure en Haïti. Et on sent qu'il y a toujours ici, un peu par là, et les poches de résistance des lieux de culture. Les écoles, tant mieux que mal, arrivent à fonctionner en ce moment. Les universités donnent leurs cours. Alors ce qui manque, c'est des salles de théâtre, c'est des salles de cinéma. Mais grosso modo, je trouve que malgré le fait qu'il y aurait une désespérance ambiante, mais on n'est pas dans une situation de grand chaos. On n'est pas dans une situation où tout le monde est à terre, où tout le monde est à genoux. Et il y a par-ci et par-là des actions de résistance.
En cette année inédite, Est-ce que Haïti a le cœur à la fête et comment se porte la langue française en Haïti ces jours-ci?
Alors, il faut dire que le statut de la langue française commence à changer et heureusement en Haïti. Il y a quelques années, il y a peut-être 2 décennies, le français n'était pas une langue de communication. C'était principalement une langue qui installait une situation de diglossie. C'était une langue qui était surtout un marqueur de classe, un marqueur économique, et c'est une langue qui appartenait aux élites. Et malgré le fait qu'on ait toujours eu en Haïti des écrivains très présents sur la scène francophone internationale, mais le français, comme moi j'ai vécu l'expérience au Bénin, et pour y être resté plus de 3 semaines où j'avais l'impression, du moins j'étais à Cotonou, j'avais l'impression que tous les Béninois arrivaient à s'exprimer en français. Il faut dire qu'en Haïti, la manière dont le français a été campé dans les cursus académiques, on n'a pas voulu que tout le monde maîtrise cette langue. On a voulu que cette langue appartienne à quelques élites, à quelques acteurs, et que cette langue participe à créer de l'influence. Pour l'instant, ça commence à changer. Il y a de plus en plus de jeunes qui maîtrisent la langue. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à populariser cette langue française qui était il y a 20 ans et séquestrée et sociolinguistiquement par les élites. Il y a le mouvement slam, par exemple, qui prend beaucoup de jalons ici. Il y a beaucoup de jeunes qui font du théâtre. Il y a beaucoup d'associations de jeunes qui font la promotion de la lecture. Et tous ces jeunes-là entendent évoluer dans les 2 langues. Et c'est ça qui, à mon sens, serait mieux pour Haïti que d'aboutir à un bilinguisme équilibré. Que les 2 langues puissent établir entre elles des rapports corrects et des rapports non diglossiques qui puissent permettre à tout Haïtien de vaquer à ses activités, de s'exprimer librement et dans les 2 langues. Maintenant, pour la fête en Haïti à l'occasion de la francophonie, il faut dire, comme ce fut le cas pour les années précédentes, on ne sent pas un grand train festif en marche parce qu'il y a une crise politique malheureusement en ce moment, et ce qui fait que les activités ont du mal à se mettre en place, et nous sommes toujours malheureusement dans le contexte Covid-19 où certaines institutions de la francophonie ont tendance à éviter les grands rassemblements, question de ne pas créer des clusters comme on dit chez les chercheurs maintenant en ce moment. Mais il y a quand même des activités qui vont avoir lieu un peu par-ci, un peu par-là. Il y a quand même des conférences. Et le 20 mars, cette journée sera sûrement marquée par plein d'activités de l'OIF. J'ai pas leur agenda là sous les yeux, mais j'imagine qu'en Institut français à l'OIF, ils vont quand même, on va dire timidement, placer des activités qui vont marquer cette fête de la francophonie.
Oui. Pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de vos exploits dans le monde littéraire ou culturel, je leur demande de visiter notre site pour avoir tous les liens vous concernant. Par exemple, un journal a écrit, et je cite, « Le prodige Enrico D'Angelo Néar, nouveau directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. » C'était le 20 avril 2020, donc l'année dernière. Est-ce que, si je ne m'abuse, en disant que vous êtes peut-être le plus jeune directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti?
Et c'est une lourde responsabilité et que je porte avec énormément de gravité. Et il s'agit tout de même, c'est la mission que la République m'a confiée, il s'agit tout de même de garder et d'installer dans l'éternité et toute la pensée haïtienne. Et ça, c'est une forte confiance qui a été placée en la jeunesse haïtienne que j'ai l'honneur, pour ainsi dire, de représenter. Tout ce stress de résultats qui accompagne cette responsabilité. Il s'agit de dynamiser la Bibliothèque nationale d'Haïti, parce que jusque-là, oui, des chercheurs, des universitaires de haut niveau fréquentaient quotidiennement cette Bibliothèque nationale, mais moi j'aimerais bien que d'autres catégories de jeunes qui ont toujours été, on va dire, cognitivement ostracisés, j'aimerais bien que ces jeunes-là puissent avoir aussi un accès aux livres, un accès au savoir. Donc autant qu'il faut garder le livre comme un objet sacré, source de culture, important qu'il faut montrer aux jeunes de ce pays que le livre est une source de plaisir. Le livre est un loisir. Et ça, c'est l'une des missions que je me suis confiée. Comment toucher ce public jeune qui avait toujours tellement sacralisé cette Bibliothèque nationale d'Haïti. Ces jeunes-là n'ont jamais vraiment fréquenté ce lieu, se disant ça appartient aux chercheurs et aux savants. Et mon deuxième objectif, c'est comment amener cette Bibliothèque nationale chez des personnes qui, malheureusement, souffrent d'un handicap physique. Parce que jusque-là, quand quelqu'un est handicapé malheureusement en Haïti, il a moins de possibilités, il a moins accès au savoir, ce qui constitue une véritable injustice cognitive. Après, ce que j'ai dans ma ligne de mission, c'est toucher toute une catégorie d'Haïtiens qui vivent loin des grandes agglomérations urbaines. L'Haïtien qui habite au fin fond du pays, il n'a pas un accès égal au savoir que le jeune Haïtien qui habite à Jérémy, qui habite au Canada, et pardon, qui habite à Jacmel, je veux dire, ou à Port-au-Prince. Oui. Mon travail à la Bibliothèque nationale, c'est d'arriver à faire en sorte que le savoir que nous gardons à la Bibliothèque nationale puisse toucher ces Haïtiens qui vivent loin des grandes villes.
Et vous savez qu'avec la crise sanitaire, on a pu voir qu'aujourd'hui, on se réinvente. On voit des touristes qui, ou encore des élèves qui sont assis dans leur salle de classe en Israël, visitant la Tour Eiffel, par exemple, grâce au virtuel. Et vous avez aussi cette envie, ce goût de numériser la Bibliothèque nationale. Alors ça, c'est un défi énorme pour Haïti.
Ça, c'est un défi mais énorme, en effet. Et heureusement que là, pour l'instant, on a pu signer un accord de coopération avec l'Agence universitaire de la francophonie, la UF, qui nous accompagne dans cette démarche. Parce que malheureusement, jusque-là, la BNH n'avait pas d'application mobile. Et là, avec un groupe d'ingénieurs, de programmeurs, nous sommes en train de finaliser. Que dis-je ? On a déjà la version bêta, mais nous attendons quelques optimisations techniques pour que cette version bêta soit disponible afin que tous les jeunes du pays puissent avoir l'application mobile de la BNH directement sur leur téléphone et avoir accès au fonds documentaire. Le site internet de la BNH aussi est totalement fini. La version bêta est déjà disponible, mais nous sommes toujours en train d'optimiser, de finaliser quelques travaux techniques dessus. Mais pour la numérisation, on est en plein chantier. Et vous me recevez?
Oui, oui.
Ouais, et pour la numérisation, on est en plein chantier. Mais comme vous le savez, pour la numérisation, c'est un chantier qu'on ne termine jamais. Il y a toujours de nouveaux titres qui apparaissent et il y a tellement d'anciens titres qui sont libres de droit qu'on peut utiliser à tout effet. Et il y a aussi toute une vision, toute une politique de la numérisation. Quels sont les textes que nous voulons rendre disponibles tout de suite et maintenant et pour les jeunes de ce pays? Moi, je peux vous dire que je mise beaucoup sur les nouvelles technologies parce que un jeune haïtien, israélien, pakistanais et un jeune de Toronto, il a beaucoup plus tendance à passer des heures sur TikTok que sur WhatsApp. Et si nous arrivons à infiltrer ses habitudes de consommation numérique, nous pouvons donner à ce jeune un accès privilégié au savoir et à la culture.
Édition spéciale Francophonie sur CUT 89,5 FM. Notre invité aujourd'hui est D'Angelo Néard, journaliste culturel haïtien et directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Très jeune, très très jeune encore, hein. Chroniqueur littéraire, animateur des livres et vous jouez avec les mots, hein. Vous jonglez avec les mots sur la radio télé des Caraïbes et animateur de Cause et Cultive sur RFI. Alors que certains médias vous encensent pour votre approche visionnaire, votre engagement de numériser les œuvres de la Bibliothèque nationale. Par contre, cette nomination ne plaît pas à tout le monde. On vous a même menacé, critiqué dans tous les sens. Vous avez dû émettre un communiqué. Et je cite, « Ma récente nomination à la tête d'un établissement public prestigieux a suscité beaucoup d'enthousiasme, autant que beaucoup d'agacement dans certains milieux réactionnaires. Depuis quelque temps, je suis particulièrement pris. » Et donc, vous avez dû présenter, mettre la pendule à l'heure, comme on dit. Et comment tout ça se passe? Est-ce que c'est dangereux d'être un homme public en Haïti et aussi d'être journaliste, parce qu'il faut bien le dire, vous êtes journaliste et on sait que la liberté de la presse, des fois, est assez menacée en Haïti.
Oui, ça c'est totalement vrai. C'est un rôle qui est extrêmement compliqué à tenir en Haïti que d'être dans la représentation publique. Et comme je l'ai bien expliqué dans mon texte, et j'ai commencé à travailler dans les médias, j'avais 19 ans, j'avais 20 ans. J'animais à l'époque sur la télévision nationale d'Haïti une émission sur les livres qui s'appelait Les gens de lettres. Et de cette émission Les gens de lettres, j'ai intégré Radio Caraïbe, la télé Caraïbe surtout avec l'émission Délivrez-vous, Cause Kilti. Donc j'ai toujours été, malgré moi très jeune, une personnalité publique. Ma récente nomination à la Bibliothèque nationale d'Haïti, malheureusement, ça a créé quelques frustrations, ça a alimenté quelques aigreurs. Mais moi, j'ai considéré cela pour la taille du pays et pour malheureusement et toute la précarité qui est notre lot en Haïti. Et du coup, un Haïtien qui arrive à créer du bien commun, qui s'investit et qui reçoit malgré lui une certaine reconnaissance publique, eh ben il y a toujours une pluie d'attaques personnelles qui malheureusement semble casser la fête. Mais je suis resté très optimiste, très positif. Et heureusement que l'opinion publique m'a toujours accompagné dans cette démarche. Et les gens ont compris qu'il faut changer cette pratique que d'insulter, que de lapider sur Internet tout personnage public dès lors qu'il atteint une certaine, entre guillemets, promotion dans sa vie. Maintenant, pour la liberté de presse en Haïti, la liberté de parole des journalistes, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été conduits à ce niveau. Il y a des journalistes ici. Bon, moi, pour la formation que j'ai eue, j'hésite à les appeler journalistes, tellement leur position est clairement marquée. Soit ils sont pro-gouvernement, soit ils sont anti, et personne n'est, entre guillemets, emmerdé pour sa position et politique ici. Tout journaliste, maintenant en Haïti, en 2021, peut prendre la parole et se prononcer librement, et peut tenir une chronique sans recevoir de menaces ou d'attaques par rapport à sa position politique.
Alors, vous avez repéré, comme je l'ai dit au début, grâce à nos collègues à Radio France Internationale à Paris, et on nous a proposé le magazine Cause Kilti, une émission qui est réalisée en partenariat avec l'Institut français de Port-au-Prince et l'ambassade de France en Haïti. Magazine placé sous le signe de l'énergie positive, comme vous aimez à dire, Cause Kilti animé par vous-même, D'Angelo Nea, qui présente l'actualité culturelle de la semaine, y compris littérature, cinéma, art plastique et musique, en Haïti et dans le monde. Et je pense que ce qui nous intéresse à Toronto, parce que vous avez un grand bassin d'Haïtiens dans le monde des affaires, ils sont enseignants, ils sont vraiment dans toutes les sphères de la vie culturelle et économique de ce pays. Et vous présentez des talents, des personnalités, et vous faites rayonner finalement Haïti, mais ce pays du côté positif. Parce que quand on parle d'Haïti, malheureusement, que ce soit en France, à Montréal ou à Toronto, on parle toujours le côté négatif, malheureusement, de ce pays. Et vous le faites très bien, vous portez tout haut et fort, vous faites honneur à votre pays. Et c'est une vraie pédagogie, je dirais. Parlez-nous un petit peu justement, pour terminer, qui en a eu l'idée de ce format et pourquoi ça fonctionne?
Alors c'est RFI qui a eu cette idée géniale et de fidéliser son bassin d'audience en Haïti. Parce que avant Cause Kilti, il y a toujours cette émission-là, c'est le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, ça c'est tous les matins. Ça donne beaucoup d'informations sur Haïti. Mais Cause Kilti, c'est une démarche de RFI, excusez-moi, qui aide la radio déjà à fidéliser ses auditeurs, mais aussi à faire la promotion d'une valeur qui pour moi est très fondamentale, le bilinguisme équilibré, que les Haïtiens puissent s'exprimer dans les deux langues, français et créole, et que cela se passe sur une antenne internationale. Je dois vous dire que ça a beaucoup plu au sein de différents milieux en Haïti et qu'on arrive à faire ça. Et ce qui a beaucoup plu aussi, c'est d'arrêter le train des mauvaises nouvelles. Enfin, une émission qui dit, il y a tel écrivain haïtien qui a sorti un nouveau livre, il y a une nouvelle exposition de peinture, il y a une composition musicale, il y a une architecture à voir. Donc, enfin, 30 minutes de bonne information sur Haïti. Alors, il faut dire que le concept a beaucoup plu et continue toujours à plaire. Mais il faut dire, vu la vague d'attaque à Dominem là que j'ai reçue suite à ma nomination à la BNH, l'émission momentanément est suspendue. En attendant, et qu'avec RFI, on trouve une manière de la reprendre. Mais l'idée en tant que telle, est 30 minutes où on n'entend pas il y a telle crise en Haïti, où on n'entend pas il y a tel cas d'assassinat, il y a tel cas de kidnapping, ça a beaucoup plu et ça a montré et non seulement aux Haïtiens dans tous les milieux, mais aussi au reste du monde, qu'Haïti demeure une république des arts.
Oui. Alors, ce que je vous propose, et là on le fait des négociations en direct, hein, c'est ça la magie de la radio, ben, tenez-nous au courant en nous envoyant des petites capsules de 1 minute, 2 minutes pour nous parler de vos prochains invités dans votre émission « Délivre et nous ». Délivrez-moi.
Oui. Délivrez-vous, voilà.
Alors.
Délivrez-vous pour délivrer les gens. Là encore, c'est vraiment une idée géniale que j'ai eue avec un ami. Comme on avait tout le temps l'habitude de se rassembler chez moi sur un balcon pour des discussions à n'en pas finir sur Kafka, sur Rimbaud, sur Jacques Roumain, et puis on s'est dit pourquoi ne pas faire une émission où on va parler de ça. Mais au départ on s'est dit ça va n'intéresser que nous,
ouais,
les seuls, parce que les gens vont pas lire le procès tout de suite.
Ouais.
Alors... à mon grand étonnement, et c'est là qu'a été surprenant, et le portier à l'hôtel me dit j'ai vu ton émission hier, le chauffeur de taxi me dit ah ton émission était pas mal, tu parlais d'Heidegger, je me suis dit mais dans quel monde est-ce qu'on vit, quoi.
Ouais. Et ce qui est bien aussi, vous faites du direct, hein, des fois vous allez avec votre micro courir derrière les gens, ou encore quand il y a des salons du livre, vous entrez.
Absolument.
Alors ça, je trouve ça formidable, c'est une bonne formule. Donc envoyez une petite capsule pour nous prévenir des prochaines émissions afin que les gens puissent se brancher sur Internet, parce que toutes les émissions sont enregistrées, comme on le sait, sur YouTube. Alors c'est très facile. Je veux vraiment bâtir cette relation afin de montrer aux gens qu'il y a de très belles choses qui se déroulent en Haïti en ce moment, et au moins qu'on ait du positif, n'est-ce pas? Alors, pour terminer, quel est le message ou vos vœux à nos éditeurs dans le cadre de la Semaine de la Francophonie et de la langue française?
Il faut comprendre que la langue française est un patrimoine commun. C'est une langue qui peut vraiment aider pour construire un peu partout dans le monde des sphères communes de citoyenneté. Faisons de la langue française un outil servant à cela, à inventer du bien commun.
Alors, D'Angelo Nea, journaliste culturel haïtien, directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, chroniqueur littéraire, animateur des Livres et Vous sur Radio-Télévision des Caraïbes, animateur de Causer Culture sur RFI, bonne semaine et bon mois de la francophonie, bon vent et au plaisir de vous recevoir de vos nouvelles très prochainement. Que la force soit avec vous, cher ami.
Allez, merci beaucoup, gardons bonheur.
Au revoir.
Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu haut. Je fais ma costume, on me voit à la télé. Et on dit prému Gaou, ne pas Gaou. Le deuxième Gaou qui est Nyata. Nyange Nyange le waye tchou. Nyange le waye tchou. Nyange Nyange le waye tchou. Sopa gachou pananga ma sistema jare.
CIUT 89.5 Toronto.
Découvre découvrir la Martinique autrement, ça vous dit? C'est parti! Au départ de la Marina du François, en groupe ou en couple, embarquez à bord de l'Arc-en-Ciel et découvrez les magnifiques fonds blancs du François et la baignoire de Joséphine. Dans une ambiance fun et festive, bourrée tractée, kayak, paddle, farniente, rythmeront votre journée sur l'Arc-en-Ciel. Bien sûr, boissons et repas inclus. Alors, contactez-nous, Caraïbes Évasion s'occupe de tout, même du bus. Infoline 06 96 336 336 336 336.
C'est amusant.
C'est simple.
C'est progressif.
Stimulant.
C'est gratuit.
C'est incroyablement efficace.
TV5 Monde, la chaîne qui donne envie d'apprendre le français. Apprendre et enseigner sur tv5monde.com.
C'est interactif.
Cela veut dire que nous avons notre mot à dire. Cela veut dire que nous avons notre place au sein de ce syndicat. Alors, il est totalement inadmissible que nous payons les cotisations comme les autres et que nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. C'est ça l'absurdité. Dis-nous, que le syndicat, que l'AFO nous explique pourquoi nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. Qu'ils nous le disent. Il y a de la compétence au sein des enseignants et enseignants. Encore, on doit rien issu de la diversité. Il y a de la matière grise, il y a de l'expérience, il y a des gens qui ont des connaissances qui veulent les valoriser aussi. Nous ne demandons que d'avoir notre place. Nous ne voulons que être valorisés à notre juste valeur. Nous ne voulons prendre la place de personne. Nous voulons prendre la place qui nous revient de droit. Nous payons des cotisations comme tout le monde. Nous y avons droit. Nous avons le droit de participer à la vie de ce syndicat. C'est ce que nous réclamons. Pourquoi nous sommes exclus de la vie, de la gestion de ce syndicat? Pourquoi? Qu'on nous explique pourquoi? Alors qu'il y a de la compétence, alors qu'il y a des connaissances, alors qu'il y a la matière grise au sein des enseignants et qui d'adversaire nous dirait.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Sur les 5 continents, 300 millions de femmes et d'hommes partagent une langue commune. Le français. Cette langue unit les 88 États et gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. Créé le 20 mars 1970 à Niamey, cet ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service et au cœur des populations. Le partage des expériences et des bonnes pratiques, la concertation, la solidarité, la collaboration inclusive avec une multitude de réseaux institutionnels, universitaires et de la société civile sont les valeurs ajoutées qui guident son action. Plus de langue française. L'OIF s'engage pour repositionner le français dans tous les secteurs d'activité et les domaines de connaissances, sur la scène internationale, sur la toile, dans les médias, aux côtés de toutes les autres langues nationales qui représentent la riche diversité culturelle de la francophonie. Elle appuie toutes les initiatives en faveur d'un enseignement de qualité du et en français. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille et analyse les données sur le terrain pour les restituer tous les 4 ans dans un rapport « La langue française dans le monde ». Plus de culture. L'OIF soutient la formidable créativité des jeunes de l'espace francophone, écrivains, cinéastes, musiciens, plasticiens ou créateurs d'art numérique, permettant une meilleure diffusion de leurs œuvres et l'accès aux marchés internationaux. Elle met en valeur l'entrepreneuriat culturel, Plus de droits. L'OIF travaille avec ses États et gouvernements membres dans une approche préventive. Elle met à leur disposition des outils pour consolider l'état de droit et la démocratie, accompagne les processus électoraux, aide à garantir à leurs citoyens les droits et les libertés fondamentaux. Elle accorde une importance particulière aux droits des femmes. Plus d'éducation. Avec l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation, l'OIF accompagne ces pays pour améliorer l'accès à une éducation de qualité et à des formations professionnelles et techniques qui permettent aux jeunes de s'insérer dans le marché de l'emploi. Elle met en œuvre des initiatives innovantes pour la formation des enseignants et le développement de l'éducation plurilingue. Plus de développement. L'action de l'OIF est aujourd'hui orientée vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Au plus près des populations, elle mène un travail de terrain pour la lutte contre la pauvreté. L'Institut de la Francophonie pour le développement durable soutient les pays membres de l'OIF dans la gestion de leurs ressources naturelles, la mise en œuvre de politiques énergétiques et les négociations internationales sur le climat. Plus d'entrepreneuriat. La stratégie de soutien à l'entrepreneuriat de l'OIF repose sur quatre axes. Déployer des incubateurs dans des secteurs d'innovation et de développement responsable. Promouvoir l'emploi chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Aider les entrepreneurs à se développer en contribuant à l'amélioration du climat des affaires et à l'accès au marché global. Mettre en réseau les acteurs pour faciliter l'échange d'expériences. Plus de numérique. À travers le Fonds francophone pour l'innovation numérique, l'OIF propose de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale, en appuyant notamment les politiques publiques de ces pays grâce à la conception d'applications numériques. Chaque jour, la francophonie se mobilise pour créer les conditions favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à l'accès à l'éducation pour toutes et tous, ainsi qu'à l'innovation. Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française.
Bonjour, je m'appelle Yao, je suis chanteur et porte-parole de l'édition 2021 des Rendez-vous de la francophonie. Du 1er au 31 mars, nous célébrerons à distance, mais tous ensemble. La thématique pour cette année sera « L'Acadie au cœur de mon pays, une langue, des milliers d'histoires ». Que vous viviez en Acadie ou à l'autre bout du pays, en mars, ce sera toute une fête.
Il y aura des concours, des jeux et des activités pour tous les goûts.
Et parlons de goûts, participez au concours Party de cuisine en nous partageant votre recette favorite pour courir la chance de gagner un prix.
Bonjour, je m'appelle Patrick Chan, je suis patineur artistique et aussi passionné de cuisine. Pour les rendez-vous de la francophonie 2021, j'ai l'honneur d'être l'hôte du concours Partie de cuisine. On veut connaître vos recettes préférées et ce qu'elles signifient pour vous. Votre délicieux gumbo qui vous rappelle votre voyage en Louisiane ou encore la soupe de votre grand-mère que vous faites maintenant vous aussi. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site rvf.ca. Vous pourriez remporter l'un des nombreux prix alléchants. Bonne chance et bon appétit.
Pour savoir tout ce qui mijote pour les rendez-vous 2021, visitez le site rvf.ca.
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, Ciné Franco, en partenariat avec CUT-FM, présente « Les démons » de Philippe Lesage. Un drame psychologique réalisé au Québec, en français sous-titré en anglais, avec Bénédicte Descaries, Édouard Tremblay-Grenier, Laurent Lucas, Pascal Buissière et Pierre-Luc Fanck. Peu à peu, les démons imaginaires de l'enfant côtoient les démons d'un monde réellement inquiétant. Les démons, un film de Philippe Lesage. Il réalise un premier film à la coloration fantastique prometteuse, une œuvre audacieuse. Si les peurs d'enfants foisonnent dans le cinéma fantastique, peu de films les abordent sous un angle prosaïque. C'est toute la saveur du film de Philippe Lesage, de traiter d'un sujet original, d'autant qu'il ne réclame aucune participation de psychanalyste, psychiatre ou psychologue. Habitué à filmer des jeunes dans ses documentaires précédents, Philippe Lesage réussit haut la main le passage à la fiction en nous livrant un film accompli de bout en bout qui parvient à nous faire ressentir de fort belle manière les peurs enfouies d'un enfant fragilisé par l'incompréhensible océan de sauvagerie et de tromperie du monde des adultes. Philippe Lesage est récipiendaire de plusieurs prix. Prix du nouveau réalisateur, San Francisco International Film Festival en 2016, prix du meilleur film, prix du meilleur réalisateur, écran canadien en 2016, prix de la Critique Festival du Nouveau Cinéma à Montréal en 2015, Festival International du Film en Espagne en 2015, Festival International du Cinéma Indépendant de Buenos Aires en Argentine en 2017, My French Film Festival à Paris en 2017, le TIFF en 2016, ici à Toronto, le Gala du cinéma québécois à Montréal en 2016, le Festival international du film francophone de Namur en Belgique en 2016. Voici, madame, monsieur, un entretien réalisé avec le réalisateur lui-même, gracieuseté de Téléfilm Canada. Ma première question, que nous raconte ce film ?
Vous êtes au courant de la vague de kidnapping ces temps-ci?
Hein?
Il paraît qu'il y a un maniaque qui kidnappe et qui tue des enfants.
Où ça? Alors, c'est l'histoire de Félix qui a 10-11 ans. C'est un enfant imaginatif et sensible, donc il y a plein de petites choses qui finalement l'effraient. Parallèlement à ça, on se rend compte finalement que peut-être que le monde dans lequel il vit et comporte quand même des peurs justifiées. On a souvent aussi l'impression que les enfants sont justement des petits êtres un peu purs, et alors que dans le fond, on est une espèce de brouillon de ce qu'on va être peut-être adulte lorsqu'on est enfant. À mesure que le film avance, l'enfant découvre Félix. Il peut être capable de cruauté, oui, comme tous les enfants sont capables, mais il prend tranquillement conscience du fait que l'autre est un être à part auquel il faut faire attention. Je voulais des gens qui soient complètement naturels. Et souvent, ce que je répétais aux enfants en tournage, c'est parle dans la scène comme tu parles dans la vraie vie. Parfois, je leur cachais aussi des choses qui allaient se produire, comme Rosemarie Perrault, qui joue la copine du maître nageur. Elle a pas lu les dernières pages du scénario, donc lorsqu'il y a une scène où elle arrive dans le vestiaire et découvre quelque chose d'assez horrible, elle savait pas ce qu'elle allait découvrir. Alors, c'est pour les garder aussi un peu sur le qui-vive, à la recherche toujours peut-être de cet élément un peu d'authenticité, quoi. C'est drôle parce que la perception du film peut changer aussi d'un spectateur à l'autre. Il y a des gens qui ont vu le film comme étant très sombre, alors que moi, je le vois pas du tout comme ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont vu avec justement... où l'aspect lumineux, finalement, elle comme emporté sur l'aspect plus sombre. Je suis peut-être un petit peu vilain parce qu'effectivement, il y a toute une scène où les frères et sœurs dansent ensemble dans un beau moment d'amour fraternel. Et juste après ça, je kidnappe littéralement le spectateur pour lui faire vivre quelque chose de très déplaisant dans la partie peut-être la plus sombre du film. Alors, cet équilibre entre l'ombre et la lumière, effectivement, je pense que c'est indispensable. Puis je trouve ça bien aussi qu'on puisse rire. Si on s'intéresse vraiment à la vie, je pense que la vie est vraiment la comédie humaine, on la voit constamment. Je pense qu'il faut se permettre aussi de rire du tragique aussi, parfois.
C'est quoi ton Caroline? Nos amis disent que c'est pas cool de parler en français.
C'est quoi?
C'est vrai ça?
Ben moi tu sais, j'ai un secret. Le français me donne des ailes.
Oh!
Attends.
Écoute-moi au Canada. Le français, tu le sais. Ce qu'il y a, c'est ce qui m'inquiète. C'est l'assimilation, c'est sa motivation. Hey ho, c'est pas compliqué. Le français, il faut le parler, le pratiquer et le chanter. Que tu sois franco-bernevien ou acadien, québécois, franco-ontarien, franco-manitobain ou françaisois. Yo, franco-alsacien, franco-colombien, franco-dora, franco-yougonais, francophone du Nunavut. Tous nous parlons français. Yo yo, je suis franco. Yo yo, je suis franco. avec mes amis d'Europe ou d'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, français, congolais, cambodgien, canadien. Hey ho, nous sommes des milliers à le parler, le pratiquer et le chanter. Que tu sois franco-bernevien ou acadien, québécois, franco-ontarien, franco-manitobain ou françaisois. Yo, franco-albertin, franco-colombien, franco-danois, franco-yougonais, francophone du Nunavut, tous nous parlons français. Yo yo, je suis franco. Yo yo, je suis franco. Franco quoi? Francophone au Canada.
Yo yo, madame Caro, tu t'imagines?
Quoi? Tous nous parlons français. Tous nous parlons français. Yo yo, je suis franco.
C'est cool.
Yo yo, je suis franco. Franco quoi?
Franco quoi?
Francophone au Canada.
Yo yo, madame Caro, tu t'imagines?
Quoi?
Des ailes et des racines.
Toute la diversité du monde sur votre fréquence. Et bonne semaine de la francophonie à vous, madame, monsieur, où que vous soyez sur la planète. Je vous envoie tous mes voeux de bonheur et de courage surtout, de résistance, parce que nous savons que c'est pas toujours évident pour certains de pouvoir travailler dans les deux langues, même s'il y a des lois qui existent en Ontario. Et oui, et un merci spécial à tous nos auditeurs qui nous envoient des messages tout au long de la semaine, surtout de l'Australie, de la Louisiane, ils sont nombreux qui nous écoutent. Et merci, merci mille fois d'être des nôtres chaque dimanche. Quelle place aujourd'hui pour le français et pour la francophonie dans le monde? Quel rôle pour les professeurs de français à l'international? Voilà quelques questions que nous allons tenter de trouver des réponses tout au long de la semaine ou peut-être avec nos invités dimanche prochain. Quelques nouvelles rapides en Ontario, le jour de la bataille des épingles, à chapeau devra attendre. Le NDP a déposé récemment un projet de loi lundi, je pense, c'était lundi dernier, pour proclamer le jour de la bataille des épingles à chapeau, visant à honorer les femmes franco-ontariennes qui ont lutté pour le droit à l'éducation en français. Or, impossible de savoir pour l'instant ce que le gouvernement Ford pense de cette initiative ou s'il a l'intention de l'appuyer ou non. Nous entendons Maître Jims en ce moment, un medley. C'était dans le cadre de la fête de la musique il y a 2 ans de ça en France. Le drapeau franco-ontarien flottera tous les jours devant l'Assemblée législative. C'est décidé. Et oui, la motion menée par la députée libérale Lucie Collard a été adoptée à l'unanimité par les élus la semaine dernière. Elle a dit, et je cite, « Les franco-ontariens, franco-ontariennes font partie intégrante de l'histoire de notre province. Et cette motion vise à reconnaître la riche histoire et les contributions continues des franco-ontariens. Franco-ontarienne de toute la province. Signé Lucie Collard, députée d'Ottawa-Vanier. Nous sommes à la fin de notre voyage intercontinental et je tiens à remercier infiniment tous nos invités passionnés de culture, de poésie, de littérature. France Benjamin, écrivain et député à l'Assemblée nationale du Québec, merci en pile. D'Angelo Néard, directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti et animateur de radio de télé que vous allez entendre régulièrement à cette antenne, merci mille fois. Il était à Port-au-Prince. Vous trouverez toutes les informations et les liens de nos invités sur notre site popourishow.com. Et merci à Ciné Franco. J'espère que vous serez nombreux à visionner les films de la semaine. Eh oui, allez sur le site cinéfranco.com. Merci à notre nouveau commanditaire, la Fondation Sylvanie Lindor. 10 ans déjà, un groupe, un organisme communautaire qui fait du beau travail auprès des jeunes noirs francophones de la région de Toronto. Merci à l'équipe Yann Alexandre Girard, président de l'association France-Ottawa-Gatineau et le projet Amicitia Canada-France. Merci à RFI TV 5 Monde, France 24, DJ Devera pour le montage et le mixage. Un bonjour spéciale à Lucie Dufaux et Sloane Ballant. Vous me manquez énormément, nous avons hâte de vous revoir. Nos bons voeux au professeur et poète Eddy Bouraoui, ami de toujours, qui réagit régulièrement à nos prévisions, à nos articles. Et au plaisir de vous parler de vive voix, cher professeur. Je vous souhaite une très bonne santé. Rendez-vous dimanche prochain pour l'émission de clôture avec quelques surprises. Et si l'apprentissage de la langue française passait par les humoristes, par les comédiens, pourquoi pas? Bonne semaine de la francophonie et de la langue française. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Bonne semaine et que la force soit avec vous. Allez, je vous laisse avec Youssou N'Dour qui nous chante la francophonie. Ciao, ciao!
La francophonie, mon sous-peuplement. La francophonie, il s'est beaucoup monné. Pour les pieds sous Warnade, Warnade, ni du couture, ouais. Wanyu atanga poluni warngena be warngena be ki ende pandanski abiko tuni la francophonie la francophonie kisei mboku monte la francophonie. La francophonie, mon sopopo, mon air, pour les pépes sous Warnade, Warnade, ni du coup tu vois, quand tu vois ta femme, nous t'allons ni Warnade, Warnade, qui est de pendant ce qui a dit qu'on. No, no, la la la, ne wow, ne wow, 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 yeah. Francophonie, la francophonie, like you say, what you want, yeah. Francophonie, la francophonie, mon sopoc, mon. Solidarité, encore, encore, solidarité, la francophonie.
Warnade, warnade, need Toluni Wangena Be Wangena Be Chi and the Panas Be Abiko Toluni La Francophonie La Francophonie The same of the morning La Francophonie La Francophonie Mom self of the morning Or let me pursue Warngather Warngather Me to put you out there When you are talking about Me to lumi Warngenobe Warngenobe Kick in the front of the speed Adli Kostani No, 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 wow, no, wow, 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 yeah. Francophonie, la francophonie, like the same book, morning. La francophonie, la francophonie, mom's a book, morning. Solidarité, encore, encore, solidarité, la francophonie, francophonie.